Coucou, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon ou bien soutenir mes invités en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la
Bonne année!
Et bonne année, effectivement. Alors que le livre est en train de me tomber des mains. Il tombe de mes mains. Enfin, il... voilà.
Il chute.
Il chute.
Non.
Hasard.
Un je livre qui s'est fait plumer par mon impression, par mon imprimante d'ailleurs. Et il s'agit du livre et du jeu Aventure à plumes de Côme Martin. Voilà.
Très
un jeu pour jouer. Ouais. C'est le livre, la maquette du livre donc, qui a été faite par Nicolas Folio et vraiment extraordinaire. Il y a les illustrations sont d'un collectif en fait. Il y a plusieurs illustrateurs qui ont été invités à partager, à participer à ce projet. Alors je les cite dans le désordre: Momatos, Alain Gruété. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est comme Clément de Ruité aussi. De Ruiter, je pense que ça se prononce, qui participe lui aussi à cette maquette. François Maumont et El Carava. Et qui participent à ces illustrations. Les illustrations sont très importantes puisqu'il s'agit de jouer des aventures à plumes, c'est-à-dire tout type d'aventures qui pouvaient se trouver dans des BD type Donald, Picsou. Voilà. Et il élargit même, comme Martin élargit même les aventures à plumes avec des aventures à poil aussi, puisque si j'ose dire, puisque il inclut là-dedans toutes les séries dans lesquelles les humains sont représentés par des animaux. Donc ça va de Basile détective privé, puisque les
le
humains
plus
sont...
Le grand des détectives.
Voilà, exactement. Alors ça, c'est Sherlock Holmes que tu cites,
aussi,
mais qui fait partie effectivement du type d'aventure qu'on peut jouer à travers ce jeu de rôle. Donc il s'agit d'un jeu de rôle qui est soit classique, donc avec non pas un MJ, mais une dessinatrice et des joueuses, ou bien à narration partagée, avec un token au milieu de la table, un bâton de parole, qui va passer en fait de joueur-joueuse à joueur-joueuse et qui va déterminer qui est le dessinateur ou la dessinatrice. Donc on a deux modes de jeu. Moi, ce que je vous propose de faire ce soir, c'est que je vais prendre la narration au départ.
Dans la mesure où on a tous notre journée, nous t'en remercions.
Voilà, et si à un moment donné, vous vous sentez qu'on passe en narration partagée, moi voilà, j'ai prévu quelques événements, quelques péripéties, mais si à un moment donné, vous vous sentez de prendre la parole et de devenir à votre tour dessinateur, dessinatrice, ça peut valoir le coup d'essayer aussi de voir comment ça tourne de cette façon-là. Donc voilà, le jeu...
Je te préviens en tant que fan... Enfin... Dans la mesure où j'ai été élevée, mais à mort, dans l'univers de Mickey, de Picsou Magazine et des aventures de Picsou, je peux te jurer que c'est là-dedans que je vais jouer, quoi.
C'est...
Je veux jouer Zaza.
Voilà, moi je suis parti sur Picsou aussi, j'avoue. Mais d'ailleurs, salut Flavie, ça va? Parce que j'ai...
Oui, en fait, t'as pas fait l'intro.
Je me rends compte,
Non, non, parce que
j'allais dire ça va. Non,
c'est quoi?
Oui, donc bien sûr. Non, pardon, je suis. Donc.
Et qui sont ces voix?
En fait, ça va, Géraldine. On va faire notre podcast à nous. Là, on va le laisser tout seul.
Je suis désolé. À chaque fois, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pour ça que je présente assez peu de jeux, à vrai dire, à la cellule, c'est que je suis toujours pris entre mon rôle de présentateur du podcast et présentateur du jeu, et du coup, voilà. Bon. Flavie, bonjour.
Bonjour tout le monde. Pardon. Après cette longue intro.
Antoine est avec nous.
Hello.
Le nouvel an, tu t'en fous ou pas?
Ouais, le nouvel an, je m'en fous.
M'en fous aussi. Et Géraldine qui est avec nous donc pour tester.
Bonsoir.
Aventure à plumes. Voilà.
T'as réussi à glisser ton bonsoir avant qu'elle démarre, c'est bien.
J'ai pris le trou.
Ouais, c'est ça. Avant le tunnel.
Titre.
Oui, d'accord. Je m'en doutais que tu allais la faire. J'ai réalisé.
Donc, c'est un jeu de rôle, on peut jouer jusqu'à combien?
On peut jouer jusqu'à 6, a priori.
Et c'est en narration partagée alors?
Ça peut être en narration partagée. Voilà. Les deux modes de jeu sont proposés dans le jeu. Et chaque mode de jeu retrouve des mécaniques propres. Mais en gros, on a la même colonne vertébrale en termes de mécanique et de règles.
Est-ce qu'il y a des... Pardon.
Non, allez-y.
On joue des personnages?
Alors oui, il y a des personnages qui sont donc des personnages pré-tirés, qui sont toujours constitués en fait de deux éléments. Un élément qui va être de leur personnalité, qui va être plutôt positif, et un élément qui va être plutôt négatif.
Et tête donc, en l'air, c'est positif.
Voilà. Alors, à chaque fois, c'est... Par exemple, alors, en général, on commence d'abord par le négatif. Ah. Donc, c'est « tu es tête en l'air, mais tu as du génie », par exemple. Donc on va jouer avec, je vais vous proposer juste...
Moi j'ai regardé un petit peu les personnages parce qu'il a laissé traîner le livre et ça, en fait c'est des personnages de Picsou.
Voilà, c'est pour ça que moi quand le jeu m'a tapé dans l'œil, parce que, alors pourquoi j'ai acheté ce jeu ? Donc il sort en 2023 et à ce moment-là, nos enfants sont à fond dans la bande à Picsou. Cédric laisse nonchalamment quelques Picsou magazines à la maison. Il les potasse en permanence. En plus, on constate avec Flavie qu'en fait, Picsou aborde des tas de thématiques geek très différentes. En fait, si on réfléchit bien, dans Picsou Magazine, il y a une dimension aventure avec
mythologique
des Picsou...
aussi.
Voilà, ouais. Avec des choses qui ressemblent un petit peu à Indiana Jones. On a des Picsou davantage tournés vers des mythes de l'Atlantide
et vers la science-fiction.
Et on a aussi des Picsou vers la SF et voire même. Et ce qu'on a découvert, enfin moi ce que j'ai découvert, des Picsou un peu horreur en fait.
Et détective aussi. Ouais.
Détective, fantastique. Ce qui est intéressant avec Picsou Magazine, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'il a joué un rôle, à mon avis, assez important dans notre culture à nous, de notre génération, et donc de celle de Comme Martin également, hein, puisqu'il est, lui aussi est un quarantenaire. Et en fait... il a joué un rôle important dans la transmission des valeurs geeks et de la culture populaire. En fait, on peut voir l'appel de Picsou, pardon, Picsou Magazine, comme une introduction à l'appel de Cthulhu, en réalité.
Qu'est-ce que tu appelles Picsou Magazine depuis tout à l'heure ? Tu parles du magazine ?
Ouais. Le magazine, okay. Picsou Magazine, ouais.
Okay, okay.
En fait, et avec les Mickey Parade, les
avec
Picsou,
le jouet,
machin. Non,
il y avait,
il pouvait y en avoir. C'était pas toujours le cas.
Il y en avait
tout le temps, hein, dans Picsou Magazine.
Non,
il y en avait souvent.
Peut-être à ton époque, moi quand j'étais jeune, il y en avait pas tout le temps.
Il y avait parfois des expériences, parfois des jeux.
Mais on a quasiment le même âge, hein, Flavie.
Ouais, bah moi il y avait non, pas tout le
sous
temps.
Sous les 40.
Sachez que j'ai fait une apparition dans le Mickey Magazine.
C'est vrai.
Dans les petites fiches. Est-ce que tu voudras voir peut-être que je le mettrai pour la cellule.
Ah, c'est génial.
Vous savez, les petites fiches recettes.
Oui.
À la fin, il y en avait 4, on les découpait, on pouvait les collectionner, ouais, et les mettre dans un classeur. Ouais. Bah, je suis dans une.
Oh. Mais alors, en tant que cuisinier ou en tant que...
Apprenez à faire la chantilly avec moi.
C'est vrai. Ah, c'est génial. Attends, c'est trop bien.
C'était déjà...
Donc, est-ce que dans une autre vie, Antoine, on peut préciser que tu as été cuisinier.
Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est marrant.
Et du coup, c'est génial.
Prédiction. Et j'avais 5 ans, un truc comme ça, quoi.
Oh, c'est trop mignon
de fou. Ah oui, d'accord.
Il demandait les recettes à des enfants.
Non, tout est fake. En fait, tu viens juste faire une séance photo.
Ah oui, d'accord.
Tu dois faire comme si c'était toi qui avais fait la recette. Bien sûr, c'est de la chantilly en bombe.
Non, mais attends.
Sur les photos, c'est de la chantilly en bombe dans le saladier.
Oui, d'accord. Ça date pas du moment où t'étais cuisinier. T'es pas apparu dans Picsou Magazine quand t'étais cuisinier.
C'est crime.
T'es apparu quand t'étais enfant. Bah non, mais on sait jamais.
Moi, je veux.
Les gars, vous allez faire un chantilly, c'est facile.
Oh putain, j'ai une image qui est bien en tête là.
Je veux la photo.
Bah ouais, je l'ai, ma mère l'a gardée précieusement, la petite fiche.
Ah ouais, je m'en rappelle.
C'était à la fois les animaux, l'histoire.
Écoute, il y avait beaucoup
la cuisine.
J'ai beaucoup appris à cuisiner avec ces fiches, figure-toi.
Okay.
Et bah voilà, il y en avait une avec Antoine.
Si j'avais su à l'époque.
Je suis ému pour ce podcast. Ah, cette année commence définitivement très très bien.
Et t'avais 5 ans du coup.
C'est incroyable.
Ouais, comme ça.
Ça commence par du secret honteux, c'est parfait.
C'est génial.
C'est pas honteux en vrai, c'est trop stylé.
C'est trop stylé.
Attends, parce que quand ça sort le mercredi, ça sortait tous les mercredis, Mickey Magazine.
C'est Picsou Magazine et le journal de Mickey.
Le journal de Mickey, c'était ça.
Toutes les semaines.
Le journal de Mickey toutes les semaines.
Et Picsou Magazine, c'était tous les mois. C'était mensuel. C'était plus épais. Oui, j'ai lu les deux.
Et pendant très longtemps. Et je sais plus, ils avaient tiré au sort des abonnés. Voilà. Patate.
Oh, trop mignon.
Génial. En tout cas, voilà. Donc en 2023 sort le jeu de Comme Martin, donc Aventure à Plumes. Et à ce moment-là, nos enfants redécouvrent Picsou. Et je me rends compte qu'effectivement, c'est un peu comme Tintin. C'est une porte d'entrée vers tout un tas de valeurs geek et vers la chantilly aussi apparemment. Mais tu vois, c'est ce qui me motive à acheter le jeu. Et puis il reste pendant longtemps dans les placards de la cellule. Parce que finalement les enfants ça leur passe un petit peu cette mode de Picsou.
Ensuite ils ont découvert Miyazaki et autant dire que de toute évidence c'est plus ça qui leur a plu.
Ouais, et en fait ce qui est marrant c'est qu'il est resté finalement de Picsou Magazine les ambiances par contre science-fiction. Du coup ils se sont intéressés à la science-fiction, ça leur a vraiment transmis mais ils se sont un peu détachés de Picsou.
Ça te met un pied dans le pulp.
Et bien justement, c'est très intéressant.
Surtout l'héritage de Picsou, là. Je sais, c'était que en BD, ça, enfin, je crois.
Picsou, ouais, c'est le Picsou Magazine, c'est très bien dessiné, BD, très très beau, ouais.
Sur avec la des... jeunesse.
Ah, la jeunesse de Picsou, qu'est-ce que c'était.
Et avec un dollar, j'ai fait ma fortune, les gars.
Et puis, il y avait des vrais dessinateurs de talent. Ouais, puis en plus, nous, on découvrait un peu tard, je veux dire, ils avaient ça depuis les années 40-50, en fait, aux États-Unis. Ouais. Et nous, on découvre des trucs assez tard, en fait, vers les années 70-80, qui continuent d'ailleurs à être réédités régulièrement dans les Picsou Magazine et les journaux de Mickey.
Des anthologies très belles.
Et avec des dessinateurs de folie, des super scénaristes, des trucs, des mecs qui ont vraiment bossé le truc, quoi. Ouais, j'étais fan.
Et non, mais moi aussi, j'étais fan.
Ouais,
par contre,
aussi, hein.
Pas des bandes dessinées, je ne les lisais pas. Moi, j'étais abonné à Pif Gadget, bien entendu.
Des jouets pourris.
Oui, non, je suis pas d'accord.
Je lance patate.
Mais par contre, effectivement, je voyais à la télé, moi, en fait. C'était à la télé, en fait, que je découvrais. Et à chaque fois que je tombais sur un épisode de Picsou, j'étais transporté, quoi. Vraiment, je sentais que c'était le truc de ma vie, tu vois. L'Atlantide. Non, mais franchement, moi, tu tombes sur un
Picsou. Il y a plein d'épisodes qui sont inspirés de
l'Atlantide. Tu fais, waouh, c'est génial, avec ces statues qui ont, en fait, du coup, des becs de canard. Enfin, tout est transposé, toutes les pyramides. Toutes les mythologies sont transposées, donc tu vois les mêmes dieux que les Égyptiens, mais avec des becs de canard. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose de déjanté. Et tu as cité tout à l'heure la référence pulp. Eh bien, justement, c'était parfaite transition, Antoine, puisque c'est là où je voulais en venir. C'est que le jeu est décrit comme un jeu d'aventure pulp et légère. Donc, c'est vraiment, on s'inscrit vraiment complètement dans cette tradition-là, avec des oiseaux anthropomorphes. Nous dit comme Martin. Donc voilà. Donc c'est exactement à ça qu'on va jouer. Donc il y a des prêts tirés. Et qui à chaque fois donc, sont formulés, comme je le précisais tout à l'heure à Géraldine. Donc par exemple, vous êtes trop jeune, mais vous êtes ingénieuse. Tu es colérique, mais tu es altruiste.
Donald.
Tu es peu assuré, mais tu es généreux. Généreuse, pardon, puisque tout est genré au féminin. Tu es un peu bêta, mais tu n'as peur de rien. Tu es pingre, mais tu as un bon fond.
Picsou.
C'est clairement Picsou. Tu étais en l'air, mais tu as du génie. Donc ça, c'est plutôt géo.
Et j'en avais vu
tout.
Un, mais je sais pas si tu l'as pris ou en gros, t'es jeune mais débrouillard. C'était peut-être celui où il y a les trois qui apparaissent.
Absolument.
C'est clairement Riri, Fifi, Loulou.
Alors pourquoi j'ai pris ces six là? Parce que ce sont les pré-tirés qui sont considérés par comme Martin dans sa base comme un bon starter. C'est des bons personnages pour débutants.
Tu peux jouer Flagada Jones?
Oui, t'as plein de. Alors après, il y a là où le jeu est.
Dans
très
ce cas-là, je parle comme ça, comme dans le générique.
Il y a une gradation en fait des personnages et de leur complexité au fur et à mesure. Et donc là, j'ai pris les plus simples et ceux avec des illustrations, des dessins. Ça peut être important. On verra pourquoi. Et moi, ce qui me fascine par-dessus tout. C'est la façon dont les scénarios sont organisés. Donc ça, c'est un scénario. Donc en fait, moi, j'ai rien préparé ou quasiment rien.
Si tu dis ça, c'est un scénario, sachez qu'il nous montre une feuille. Hein, parce que
voilà,
c'est vrai que
c'est une feuille A5. Enfin, c'est juste en fait un A5 avec des règles en fait et des éléments en fait à cocher. Donc quand il y a un événement qui survient dans le scénario, on coche et ça fait avancer en fait l'histoire. Donc nous, on va jouer La Maison Hantée.
Ah oui, trop bien.
Donc qui est un scénario d'exploration. Moi, alors pourquoi j'ai pris La Maison Hantée? C'est parce que c'était mon niveau préféré dans DuckTales sur Nintendo, le niveau de La Maison Hantée. Et donc du coup, j'avais...
Bah, moi, mes premiers frissons en lecture, c'était les épisodes où en effet, à chaque fois, il y avait des fantômes et tout. Et c'était trop bien. Je me suis rendu compte qu'ils étaient tous inspirés de Sherlock Holmes ou de trucs un peu pulp. Mais
ouais.
Et ce qui était génial, c'est quand j'ai grandi où je me suis rendu compte que... Oh mon Dieu, mais c'était presque du plagiat.
Oui, on pourrait presque dire que c'est du plagiat.
Mais en fait, ça fait découvrir aux enfants des trucs et quand tu grandis, tu fais oh «
ah,
mais en fait, ouais. Mais c'était assez. » En plus,
ça,
des fois, ça colle vraiment à ce qui se passait dans le bouquin.
Et puisque c'est d'actualité là, avec la sortie du film de Guillermo del Toro, il y avait aussi un épisode de Picsou avec un Frankenstein, avec une tête de canard, enfin... Il y a vraiment de tout. Il y a un Robocop avec une tête de canard. Il reprenait toute la culture populaire des années 80. Et vous allez voir, donc j'ai pour le jeu, J'ai été chercher des musiques de Picsou pour notre partie et vous allez entendre les musiques. Vous allez, ça, c'est incroyable. On dirait. Alors d'abord, il y a un côté vraiment très années 80. Vous verrez qu'il y a du MacGyver, il y a du Magnum, il y a du, enfin, dans les inspirations musicales, on reconnaît toutes ces séries là. Et il y a du Spielberg, il y a du George Lucas, enfin pas du George Lucas,
John Williams.
John Williams, merci. Dans, j'ai pensé à toi, Antoine, très fort. Donc voilà, donc je suis vraiment intrigué par ce jeu sur sa mécanique et tout ça, et donc je voulais vous le présenter puisque j'ai pas eu l'occasion finalement de le présenter aux enfants. Je voulais le présenter à mes grands enfants cellulaires.
Bah, on a hâte, hein, je pense. Ouais. Moi, c'est des rêves très lointains, hein, pour moi.
Non, alors tu vas voir, je vais te mettre je vais te mettre la musique. Il faut et dire tu vas être dedans 15
Flavie,
secondes.
Flavie, hein. C'est quelle année là à peu près quand tu regardes tout ça? Ça passait en 92, 93, 94, non?
Je suis dans 82, je dois avoir 5 ans, je dois avoir 3 ans quand
donc,
je commence à regarder
dans
ça.
Les années 80.
85 et quand je commence à bouquiner, du coup, je sais lire, donc c'est 6 ans après, donc 88, 89. Quoi.
Ok, donc ça passait déjà, parce que ouais. Moi c'était dans les années 90 plutôt.
Ah, moi c'était au primaire, on se battait. Moi j'étais deck parce que ça passait hyper tôt la bande à Picsou et j'avais pas le droit de regarder la télé à cette heure-là. Là, non, mais le générique il déchire quoi.
Donc pendant 10 ans ils ont passé.
Ouais, ils repassaient régulièrement les.
Alors les OST que j'ai trouvés sur le net sont datés. J'ai pas regardé la date du TV show et de toute façon c'est compliqué parce qu'il a dû sortir aux États-Unis à un moment, être traduit en France. On ne saura pas. Mais les OST,
c'est TF1 qui avait les droits.
87. Hein.
C'est TF1. Donc TF1, à mon avis, ils ne lâchent pas les droits comme ça, non?
Ah, ça, je
ne
sais
pas.
Pas
avoir
87,
les...
donc j'ai 5 ans.
Ouais.
Donc ça correspond au moment où je commence à mater tout ça. Et puis, il y avait le Disney Parade le dimanche après-midi. Ou même si c'était beaucoup d'extraits de, il y avait non mais ça c'était l'après-midi Disney Parade. Il regardait, il passait beaucoup d'extraits des grands films, mais aussi des petits extraits comme ça.
Non, c'était Anna Barbera.
Non,
non,
c'est Tex Avery.
Ouais.
Et puis Bugs Bunny et tout ça.
Ouais. Ok, très très bien. Bon bah on y go alors.
Allez.
Ça va.
Allez.
Moi je veux que tu mettes la musique de la bande à Picsou pour démarrer le truc qui fait tout tout tout.
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou, c'est le plus puissant de tout Canardville. Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars. Picsou, en suivant Pipi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche,
voix de canard,
le plus chiche,
le plus roublard,
un suivant, Fifi, Riri, Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou.
La DA, c'est la DA de la cellule.
On ne veut plus claquer du bec chez nous. Nous voulons entrer dans la bande à Picsou.
Bon bah, puisqu'on doit tous dans un micro, toi c'est quoi ton moam préféré?
Eh ben écoute, moi j'ai beaucoup aimé le citron ce soir, mais mon préféré c'est fraise et il n'y en avait aucun dans le paquet.
Ouais, j'ai remarqué qu'il y en avait zéro.
C'était très très décevant.
C'est intéressant, on remarque tout dans les micros. Le taux de drop des moam.
Non, mais vous vous moquez de moi parce que je dis, bah oui, on débrief dans les micros, mais c'est important. Par exemple, là tout de suite, t'étais en train de parler de quoi? T'étais en train de parler de Fiasco.
Oui.
Pourquoi ce jeu t'a fait penser à Fiasco, Antoine?
Parce que c'était un fiasco. Non, j'ai connu.
Qu'est-ce qu'il est con.
Non, pour la narration un peu partagée,
voilà.
Comme ça, où la frontière, la limite, c'est un peu flou et en même temps c'est ça qui fait le sel du jeu, quoi.
Alors là, on peut débriefer immédiatement, quasiment au bout de peut-être 5 minutes. J'ai cessé d'être maître de jeu et on a commencé à faire tourner le bâton de maître de jeu.
Ouais, elle a surtout tourné dans ma main. Hein.
Ouais, alors pourquoi?
Bah parce que je connais vachement bien le canon esthétique,
bah là,
et que j'avais trop envie de le faire jouer.
Voilà.
Voilà.
La RF. La République française.
T'as la référence.
Ah ouais.
La RF.
Alors effectivement, Flavie avait tellement les refs que pendant la création des personnages, par exemple, vous voyez, il y a une relation map qui est prévue. Donc vous prenez des prêts tirés et il y a des relation maps qui sont prévues dans la base. Donc nous, on avait pris la relation map standard où en gros, on a donc le personnage de la vieille pingre là qui est l'employeur en fait des autres. Et en fait, ce qui était trop rigolo, c'est qu'avant même que je décrive la relation map, Flavie immédiatement, elle prend le contrôle du truc et dit bon, il faut qu'on ait des relations entre nous. Alors moi, je vais être l'employeur de vous tous et machin, et toi, tu vas être mon.
Et puis on va aller, j'ai une quête, on va aller chercher un vieux collier maudit. Voilà. Et en fait, c'était le Sénat.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, la nichée standard. Donc la nichée, c'est quoi? C'est le groupe des personnages des joueurs, en gros, le groupe des PJ. On appelle ça une nichée dans Aventure à Plume. Et donc la nichée standard, eh ben, c'était exactement celle que Flavie venait de me pondre. Hein, le mot n'a jamais été aussi bon. De pondre juste avant que je ne lise la nichée standard.
Mais en même temps, c'est dans génial. La mesure où. Où les personnages sont clairement inspirés des personnages de Picsou Magazine. Je veux dire, il y a Flagada Jones, il y a tout ça. Hein. Je veux dire, c'est ouais. Les personnages sont clairement ceux-là. Ben, à partir du moment où moi j'ai pris Picsou, ben Van der Quack, Miss Van der Quack, ouais. Ben en fait, ça me paraissait évident de démarrer comme un bon vieil épisode. Donc, qu'est-ce qui se passe au début de l'épisode? Picsou, il a en tête d'aller chercher un artefact ou un truc débile comme d'habitude, parce qu'il sait que ça va lui rapporter des sous. Et donc, du coup, il met tout le monde sur le coup. Il y a son neveu à qui lui doit forcément au moins 20 centimes, et donc il va devoir prendre des risques insensés pour pouvoir gérer ça.
Exactement.
Et les autres, c'est moi qui les paye, donc ils m'accompagnent. Cette fois-ci, on n'avait pas Riri, Fifi et Loulou, peut-être que pour une fois, ils étaient à l'école. Et donc, du coup, on part chercher quelque chose, quoi.
Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, Antoine, Géraldine? Parce que vous, pour le coup, vous n'avez jamais pris le bâton, vous n'avez pas voulu, en fait, devenir dessinatrice ou dessinateur. Aucun d'entre vous n'a décidé de prendre la position du maître de jeu, en fait, de décrire donc les personnages non-joueurs. D'ailleurs, vous n'avez joué que vos personnages. Vous n'avez joué aucun personnage non-joueur. Vous êtes resté full acting dans votre propre personnage. Alors que Flavie et moi, qui alternions le rôle de dessinateur, donc en fait, on était à 2MJ finalement, même si c'est toi surtout, Flavie, qui a maîtrisé la partie, alors que c'était moi qui avais préparé. C'est ça qui est intéressant. Hein. Ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'immédiatement, finalement, l'autorité a été donnée à Flavie parce qu'on a tout de suite senti que c'est elle, en fait, qui avait le plus de culture sur ce type de bande dessinée. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et vous, en tant que... Du coup, vous avez été joueur et nous, MJ, donc... non, Géraldine, non
je... Si, non. Je pense que, moi, c'est l'expérience qui m'a manqué sur ce type de jeu. Qui c'est fait que, effectivement, prendre la narration, pour moi, c'était pas évident. Et puis, alors, j'avais pas forcément toutes les références. Je parle pas assez près de mon micro, c'est ça.
T'avais pas Picsou, tout ça, ça te parle pas?
Bah alors, ça me parle, mais de loin. Enfin, c'était d'accord. Surtout mon frère pour le coup, et du coup, j'avais pas forcément effectivement toutes les références. Je l'avais de très loin, et j'ai pas l'habitude de mener des parties non plus. Donc du coup...
Et à aucun moment t'as eu cette envie, tu t'es dit tiens, ça pourrait être marrant de proposer un décor, un cadre, le cadrage d'une scène, etc.
Je sais pas, je me sentais pas assez à l'aise pour ça. Mmh. Peut-être que si on avait fait deux parties ou trois parties, parce que les parties sont assez courtes par contre.
Oui, c'est une heure grand maximum. Hein.
Donc c'est un bon début en tout cas pour démarrer des jeux de rôle. Après, il aurait peut-être fallu que je me regarde deux, trois épisodes.
Ouais.
Les jours d'avant, et comme ça, je pense que j'aurais été plus imprégnée
du canon esthétique.
Du canon esthétique.
Et te dire, ouais, je suis capable
d'amener des choses.
Parce que moi, une de mes thèses, c'est que ce genre de jeu, c'est parfait justement pour montrer aux gens que devenir MJ, bah, c'est facile en fait. Mais du coup, c'est intéressant. Oui, c'est facile, mais à condition quand même d'avoir quelques refs.
C'est ça, de connaître un peu l'univers dans lequel on va jouer. Ouais.
Parce que c'était pas les idées qui manquaient ou la peur de prendre la parole. Géraldine, t'as pas peur de prendre la parole de manière générale?
Pas avec vous, ça va.
Voilà, je le précise. Non, mais je le précise parce qu'on pourrait dire, ah oui, elle est peut-être été intimidée. Voilà, c'est ça, exactement. Non, non. Hein. Donc, mais c'est vraiment plutôt
non,
ça.
Non, puisque quand tu jouais, tu te lâchais plutôt. Quand tu exactement. Jouais ton personnage, c'était assez chouette d'ailleurs.
Ouais, exactement. Antoine, pourquoi t'as pas pris du tout le
contrôle? Je précise qu'il est en train de pouffer de rire hors micro.
Non, je pouffe pas de rire. Non, bah, je sais pas, je l'ai pas senti. C'était pas le jour, peut-être, je sais pas. C'était pas mon football. Ouais.
J'ai pas la ref.
Ouais. Non. Si, j'ai les refs. J'ai tout lu, j'ai tout vu, mais c'était il y a. Tu sais, je suis un champignon, moi. Je suis un homme sérieux.
Ah bon ? Vraiment ?
Je suis un homme sérieux.
Ouais. Pourquoi des bobines en cravate alors ?
Moi, je suis dans Hook, je suis Peter Pan qui a oublié qu'il était un enfant, tu vois. J'ai tout oublié.
Ah, c'est trop triste ce que tu racontes.
C'est trop triste. Mais à votre contact, je m'en rends compte de plus. Pourquoi ils ont que des rêves enfantins ?
Pourquoi ils ont que des rêves d'enfants de moins de 14 ans ?
Quand t'as commencé à me jeter, Romaric, là, t'as fait le Matt Mort, là, le méchant. Oui. Je suis oh là là, on est où là? Ah non, mais il met la barre trop haute.
Mais je sais pas, immédiatement ce qui m'est venu en tête, c'est bah, y a le film là, avec la lampe, et donc ça commence. Non, ça finit comme ça, où ils sont sur une espèce de château, forteresse volante et tout. Et moi je pensais à ce personnage là, tu vois. C'est assez marrant dans Picsou, c'est que les méchants ils étaient assez terrifiants, je trouvais.
Mais justement, pour éviter que ça soit quand même trop terrifiant. Moi, l'impression que j'en avais quand je le disais, c'est que justement, il renforçait tellement les traits terrifiants que ça en devenait cartoonesque et donc drôle.
D'accord.
Même si du coup c'était le terrifiant qui te fait un frisson, t'es là, ah, c'est rigolo, mais... Ah.
Il avait un bon doubleur en plus, le méchant, je me souviens. Je sais plus qui le doublait, mais c'est un mec qui avait une voix très caverneuse.
Il y avait des bons doubleurs dans la bande à Picsou, même dans les dessins animés.
Ça foutait les jetons, hein. Moi, j'ai le souvenir d'avoir ressenti des petits
frissons. Il y en avait certains dans les maisons hantées et tout. Voilà. Ça fait partie de mes premiers...
Et puis, il avait ce côté un peu, magicien... Mais vieux magicien Disney, tu sais, avec la voix très caverneuse, tu vois. Bah, le magicien, regarde le magicien, par exemple, dans Fantasia, dont on parlait avec toi, Antoine, on parlait de Fantasia l'autre jour. Le magicien de Fantasia, je te jure, il est à voir, même encore aujourd'hui, dans l'animation et tout, il est assez terrifiant. Bah, c'est exactement la même animation.
C'est Christopher Lee, quoi, Dracula.
Oui, exactement.
Ouais, en fait, mais, si tu regardes bien tous les films de cette époque-là... Les films de Disney de cette époque-là, ils étaient horribles. Je suis désolée, j'en reviens toujours à ça, mais Pinocchio et la scène de transformation des enfants en âne, quoi. Moi, je l'ai revu récemment, j'étais là.
En âne ? En cheese âne ?
Horrible !
En cheese âne ? Pas la ref.
Un chou, bah, tu veux te faire un trauma ?
Il m'a traumatisé. Ouais.
Body horror.
Tu veux te traumatiser ? Après le podcast, tu mets Pinocchio, transformation en âne, et là, tu vas juste bader.
Et il y avait ce côté, effectivement, même dans Taram et le chaudron magique, des animations étranges, il y a des trucs un peu à... Tu sais, c'est un peu comme l'animatronique, s'il y a une sorte de vallée dérangeante de l'animation, et vraiment, on l'a retrouvé là-dedans. Bon, toujours est-il que voilà, c'est pour ça que j'ai campé ce personnage, parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans l'exploration, donc une exploration, donc c'est un scénario, dans une partie de Aventure à plumes, on commence avec un but, donc le but est posé. Ce qui est cool, c'est que c'est une feuille, en fait, en A4, qui va être posée au milieu de tous les joueurs, et de toutes les joueuses, et qui va dire, en gros, donner la DA, en fait, de la partie et les directions. On a un point de départ et un point d'arrivée, et un but. Par exemple, ici, le but de l'aventure dans la maison hantée, c'est explorer la maison hantée aux confins de la ville pour comprendre pourquoi l'une d'entre nous rêve depuis une semaine de cette maison hantée. Le point de départ, c'est on est en train de vaincre Matt Mort, l'hypnotiseur maléfique. Et le point d'arrivée, c'est on comprend l'influence de Matt Mort sur la maison hantée, sur les lieux qu'on va visiter. Donc, c'est pour ça que moi, je commence la partie en vous décrivant une scène immédiate res où vous êtes en train de vaincre Matt Mort. Et vous me dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Enfin, il y avait un côté, je voyais bien, surtout chez toi, Antoine, de truc, mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc où je commence
Après, j'ai compris. J'ai fait oui, d'accord, c'est une intro à la James Bond.
Immédiat res. Voilà. Mais tu vois, c'est bien écrit comme ça.
Non, mais c'est juste que ça a été réglé en 2 minutes. Bon, ça, c'est ça qui me faisait marrer.
Mais en fait.
Genre, il trébuche, il tombe dans le vide. Oups.
Alors, je suis pas d'accord. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ça. Il t'a hypnotisé, il t'a forcé à te retourner contre ton employeur. Et ton employeur, donc Flavie, t'as déshypnotisé en sacrifiant un truc qu'elle possédait, un collier.
Mon amulette.
Elle t'a sauvé.
Tu as sauvé la vie en sacrifiant un truc.
Alors, il s'avère que j'avais pas vu, parce que j'étais tellement déjà partie loin, qu'en fait, mon perso, j'avais déjà remplacé le sou par une amulette et tout. Et plus tard, dans la partie, je me suis rendu compte qu'il y avait l'équivalent de mon amulette, c'est-à-dire du sou, quoi.
La couronne.
Qui était notée. Alors, et elle est passée où ? Parce que j'avais apporté.
Bah, c'est pas derrière, en fait. Faut pas juste retourner la feuille.
Okay. Et donc en fait, j'avais déjà un truc, c'était le puissant artefact, c'était la couronne du roi mythique, mais bah du coup, j'avais transformé ça en amulette, donc
Ouais, trop bien.
Donc
trop
en fait,
bien.
Voilà,
mais encore une fois pile poil dans le canon esthétique, quoi.
Et
incroyable.
Donc je sacrifie ça pour sauver du coup Fafa.
Ouais.
Qui, qui est hypnotisé. Enfin,
le personnage d'Antoine, donc, qui est hypnotisé. Donc, ça commence un peu de façon un peu dramatique, avec ce méchant qui tombe dans le vide, l'amulette est perdue. Y a quand même un côté, tu vois, ça commence vraiment... Enfin, moi, je me souviens de cette fin de La Lampe Magique. Le méchant, il meurt crasse, hein, il meurt pas propre. Il y a toujours les méchants dans Disney, ils finissent toujours par tomber dans un ravin. Parce que c'est normal, parce qu'on veut pas montrer aux enfants le corps, en fait. Donc, du coup, il va disparaître. Gaston, il disparaît dans la brume aux côtés du château. Scar, il chute dans le Roi Lion, on ne voit que son ombre, etc., etc. Et on pourra en citer des tas comme ça. Et donc là, tu vois, ça faisait vraiment... On était vraiment dans l'intro parfaite du Disney, quoi. Vraiment, il y avait tous les canons.
Alors que dans Babar, hein, Babar avec sa maman. Vas-y, le raconte, cadavre Antoine. De sa maman.
Non. C'est vrai, ça ?
Bah ouais, mais c'est pas Disney.
Ok, oh putain, c'est ouf. Je savais pas ça. Alors, comment est-ce que... Donc, une fois qu'on sait comment ça commence et comment ça finit, on a des étapes, en fait, qu'on doit franchir, des cases qu'on doit cocher. Et ces cases correspondent à des phrases, en fait. Par exemple, si on décrit, si, en tant que dessinatrice, on décrit un endroit inaccessible qui doit être atteint, tac, ça nous permet de cocher une case. Si on décrit...
Et c'est rigolo parce que... on n'a pas eu la même façon de considérer en fait ces trucs-là, toi et moi, en tant que MJ.
Alors, j'en lis quelques-unes, puis après, c'est très intéressant, on parle de ça. Quelqu'un qui disparaît brutalement, tac, on coche une case.
Lis la what the fuck, là.
Une équipe de cinéma complètement perdue qui tourne dans le coin. C'est génial, comme truc. C'est formidable.
On ne l'a pas utilisé.
Mais ça peut être une façon aussi de rompre le truc dans la nature. Ok, coupé, c'est bon, là. Et ça peut créer un rebondissement très marrant. On a un endroit qui menace de s'écrouler, on coche. Bref, on a un certain nombre comme ça de cases qui nous sont proposées. On en a 8 en tout qu'on pourrait cocher. Et en fait, une partie courte, comme nous dit que c'est on coche 4 cases. On a fini et on comprend, du coup on arrive à l'objectif, on comprend quelle est l'influence de Matt Moore sur les lieux en l'occurrence. Si on veut une partie courte, moi j'avais prévu une partie moyenne, donc 6 cases à cocher sur les 8, et au final on en a coché 7. On finit avec la feuille, on en a coché 7. Ça veut dire qu'on a joué plus qu'il était nécessaire. Donc voilà, donc en fait la durée de la partie dépend en fait de ces espèces de checkpoints. C'est bon, vous êtes dans une maison hantée, il y a eu la matérialisation d'une grande peur, c'est bon, c'est...
Mais donc ça, les choses à cocher, c'est le dessinateur ou la dessinatrice qui coche, donc c'est lui. Alors, qui doit mettre en scène ces choses là
justement, je pense que Rome et moi on n'a pas eu la même façon de jouer les potentiels obstacles. Par exemple, lui quand il voulait faire avancer une scène, du coup il en faisait popper un.
Absolument.
Moi, quand je regardais ça, en fait, ça m'indiquait vers où aller et je décrivais un système, une scène qui allait faire que vous alliez jouer dans cette scène et arriver à ce truc-là.
Exemple, t'as pas un...
Exemple, un eh bien, pareil, attends, je regarde.
Pour que ça soit plus clair, ouais, pour ceux qui nous écoutent.
Je savais qu'un un endroit inaccessible devait être atteint. Et donc,
case à cocher.
Et donc je vous décris tous à des endroits où vous arrivez devant des escaliers. Et donc l'idée c'est que je voulais que vous décriviez un peu comment vous descendiez dans l'escalier, ce qui vous arrivait jusqu'à ce qu'on atteigne un endroit inaccessible qui devait être atteint. Et du coup c'était amusant, c'était rigolo. C'est pour ça que des fois je gardais le dé. Parce que souvent, tu récupérais le dé pour jouer, parce que ce que c'était possible. Hein,
théoriquement, c'est la dessinatrice qui doit le passer.
Ouais, mais je te... Enfin bref, on se passait
on
le
se
dé.
On se passait
mais
le dé, ouais.
L'idée, en fait, c'est que le potentiel obstacle n'était pas encore arrivé. Toi, tu faisais popper un potentiel obstacle, ouais, qui n'était pas celui que j'avais prévu, en fait.
Oui.
Et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, bon, je vais garder le dé, parce que sinon, je ne vais pas réussir à faire mon truc. Et donc, du coup, c'est là que... en fait... en fait c'est toi qui les as tous fait popper au final.
Non, il y en a certains que j'ai coché parce que c'est toi qui les as fait popper.
Ok.
Et en fait tu t'en avais pas conscience parfois, enfin je savais que tu les avais à l'esprit, mais il y a des moments, ouais, c'est mon écriture sur toutes les coches,
ouais,
mais attention, il y a des fois
oui,
où
oui.
C'est, je les ai cochés
mais,
parce que
mais du coup en fait quand je les cochais pas, c'est que j'estimais que c'était pas encore assez, tu vois, ou je sais pas. Mais
très intéressant, ça.
Ouais. Ouais. Et j'estimais qu'on n'était pas encore arrivé à l'endroit que j'avais imaginé. Je voulais qu'on aille un peu plus loin. Et du coup, je pense que ces deux façons... Alors moi, je sais pas comment ils sont expliqués, la façon d'utiliser les potentiels obstacles dans le jeu. Mais je pense que ces deux façons de l'utiliser différentes. Soit tu l'utilises pour faire d'un coup, paf, un truc qui se passe et avancer, ta façon de l'utiliser. Alors que moi, je l'utilisais plutôt comme une sorte de guidance pour le scénar, pour faire avancer le scénar jusqu'au moment où ça arriverait. Ce qui fait que au final, j'ai l'impression que quand c'était moi qui avais le dé, en fait, ça prenait plus de temps.
Ouais.
Et que quand c'était toi, d'un coup, il se passait plein de trucs un peu tac, 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 tu vois, pour faire avancer le scénar.
Alors moi, donc parmi, donc soyons clairs, hein, parmi les coches, en fait, mon problème que j'ai eu, c'est que très très vite, on aurait pu quasiment tout cocher. Puisque dans l'escalier, au départ, il y a déjà une séparation brutale, quelqu'un qui disparaît brutalement. Et aussi, j'avais vu quoi ? C'était une errance au mauvais endroit. Parce qu'en fait, quelque part, le fait de tomber dans un escalier et la scène que je t'ai décrite au départ, Géraldine, quand mon personnage tombe dans les escaliers et qu'il arrive en fait à un mauvais endroit au final, c'était déjà, en fait, quelque part, on avait déjà coché deux trucs. Donc moi, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on coche ni l'un ni l'autre. À ce moment-là, je ne coche rien. Hein. Voilà. Tac, tac, tac. La matérialisation du Grand Peur, c'est toi qui a permis de la cocher. C'est juste, moi j'ai demandé à Géraldine, est-ce que t'as peur là à ce moment-là et tout ça, est-ce que tu penses que là...
Mais tu vois, pareil, là du coup je l'avais pas du tout compris comme toi, le fait que d'un coup il y a une grande peur. Pour moi, la matérialisation d'une grande peur, c'était genre un truc, un Tonien qui apparaît, tu vois ce que je veux dire?
D'accord, ok, ouais. Oui, bah ça c'est le
mais
problème.
C'est intéressant, tu vois.
Ouais, c'est intéressant. Et puis c'est un peu le truc de tous les jeux à narration partagée, ça. Hein. C'est un truc qu'on retrouve souvent.
Ouais.
Mais
du coup, ça faisait des changements de rythme, etc. C'est pas inintéressant non plus, tu vois. Et du coup, quand tu cochais, j'étais d'accord. C'est juste que je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la même façon d'utiliser les potentiels obstacles.
Ouais. Y avait quoi d'autre ? Alors, ce que j'ai adoré, le double maléfique de l'un d'entre nous, ça j'ai adoré. Parce que, en plus, avant de me passer la narration, tu tends une perche incroyable, puisque tu décris à Antoine. Antoine rentre dans une pièce et tu lui décris en fait un mannequin. Je lui dis, non, mais c'est trop bien, quoi. Le double maléfique, on va pouvoir l'incarner quasiment tout de suite. C'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus dans l'idée. J'avais ça en tête et je me disais, quand est-ce qu'on va pouvoir les faire bobber?
Alors que moi, pas du tout, en fait. Moi j'étais dans l'idée. Quoi. Mais parce que je connais beaucoup plus aussi le cadre esthétique.
Ouais.
On va avancer dans l'histoire et quand ça va popper, on va le cocher. Je vais guider en fait les joueurs vers des endroits qui vont nous permettre de cocher un d'eux.
Alors là, sur le canon esthétique, je t'arrête un peu parce que dans une BD, ça va très vite en réalité. Les scènes d'action, elles se déroulent très très vite. La fiction est dure. Et d'ailleurs, vraiment, j'insiste sur le fait qu'ils disent, voilà, c'est une heure la partie. Donc ça veut dire que c'est quand même un jeu qui est fait pour être joué avec un rythme assez soutenu.
Oui, mais
il y a beaucoup de conseils sur le rythme d'ailleurs.
Oui, mais notre rythme, je dis pas qu'il faut que ce soit lent. Je dis juste qu'on n'avait pas la même façon d'envisager l'histoire et comment ça se passait. Et en fait, moi, j'étais d'un côté, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'on a pu jouer un canon esthétique et tout. Mais de l'autre, je trouve que de l'histoire, on ne sait pas pourquoi j'ai passé une semaine à rêver de ce truc. On sait pas vraiment comment fonctionnaient les yeux finalement de Matt Moore. Il nous regarde, mais c'est tout. Il nous manque plein de résolutions finalement dans l'histoire, tu vois, parce que tout est allé tellement vite qu'en fait on...
Bah, parmi les conseils qu'il y a, c'est laisser plein de choses en suspens, tu vois. Enfin, il y a un côté aussi, c'est normal parce qu'en fait l'idée du jeu, c'est ensuite on prend une autre feuille et on fait la suite. Et là, du coup, c'est l'occasion. Je pense que le jeu, il s'enrichit des scénarios précédents. Et le premier scénario, ça doit toujours être un peu galère. Et après, en fait, tu t'enrichis des premiers trucs. Tu dis, ah, mais vous savez, Matt Moore, la dernière fois, en fait, on va découvrir dans ce truc-là qu'il y a un lien avec machin, tu vois.
Mais ça se joue en épisode sur une saison, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Je pense que c'est vraiment le truc à émuler. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça, le truc de la feuille d'exploration, le fait de cocher des cases pour faire
avancer
le scénario.
Alors, le système, il marche très, très bien. C'est très, très rigolo. Mais il faut qu'il y ait vraiment des personnes qui connaissent bien le cadre esthétique dans lequel on joue pour pouvoir y jouer. Mais moi, j'ai trouvé ça très, très cool. Mais je ne sais pas du tout. Même si j'ai un peu de frustration, je te dis, sur la fin, parce que je trouve que... Ça va trop vite parce qu'il y a une différence entre oui, il faut que ça percute et où on n'a même pas eu le temps d'explorer le scénar, je trouve.
Enfin, ou même les pièces, c'est vrai que
c'était béni là.
Ouais.
Alors
c'est ça, mais vraiment.
Mais alors pourquoi ? Alors pourquoi ? Moi j'ai un élément de frustration sur le système et qui explique très très bien ça. En fait, on ne sait pas comment on résout les actions dans le jeu, moi je trouve.
Ah, c'est toujours la même façon, c'est-à-dire que moi j'avais deux façons de faire, soit je perdais un truc coûteux, alors, je sais plus comment c'est noté, attendez je reprends ma feuille, Soit je sacrifie quelque chose de coûteux pour réussir complètement mon action, soit je réussis avec une complication, ou alors j'échoue. Bah, une fois que tu as sacrifié un premier objet coûteux...
Attendez, je vais sortir mon autre truc.
Alors, j'ai sacrifié... Bon, bah, maintenant, il me reste mon slip.
Ça peut vite tourner en rond, ouais. En fait. C'est vrai, les résolutions, quoi.
Bah ouais, c'est
ça. Il fallait que je me mette en colère. Bon, bah oui, d'accord.
Alors, il y a aussi autre chose, c'est le côté... quand t'es dessinateur, tu ne sais pas comment explicitement dire à un joueur ou une joueuse, ça c'est une difficulté, tu vas devoir faire appel au système de résolution pour le résoudre ou me décrire quelque chose pour
le
résoudre.
Je pense que t'as pas besoin de dire là t'es face à un problème, il faut résoudre ce problème. Je pense qu'il suffit juste d'être RP. Tu regardes ton perso et tu vois comment tu t'en sors. Moi il faut que je fasse le guignol, je casse des trucs, je déclenche des pièges.
Ok, très très bien.
Je pense qu'il suffit de respecter son roleplay. Et a priori, l'histoire continue, non ? Enfin, je pense que c'est ça
qui s'est plutôt passé en tout cas autour de la table. Ouais.
Tu vois, laissez votre propre personnage à l'arrière-plan. Donc, ça, c'est quand on est dessinateur. Décrivez des séquences rapides, découpées en une suite de petites cases, ou au contraire, des moments figés dans le temps en illustration pleine page. Donc, tu vois, je pense que Gaume, il a conscience justement de cette distinction de rythme et il dit bah voilà. Je trouve qu'on a un peu des deux, tu vois. Il y a des trucs très séquencés, des scènes d'action, des scènes dans l'escalier.
En gros, toi,
trucs...
t'étais les moments rapides et moi, j'étais les moments pleine
page. C'est
ça,
exactement. C'est exactement ça. Complètement. Alors là, tu vois, pour allonger une partie, introduisez une intrigue secondaire, une aventure d'une autre nature venant s'ajouter à l'aventure principale ou simplement un enjeu supplémentaire qui ne concerne pas forcément tous les personnages. Les conseils, donc explorer les relations entre les personnages, cadrer un flashback. Ah oui, tiens, on l'a pas fait ça. Tu l'as fait peut-être à un moment donné, Flavie, toi ?
Non, je pensais que j'ai introduit le journal de Henriette Slatcher, mais
on s'en est pas servi
du tout.
Alors ça, comment est-ce qu'on aurait pu s'en servir
L'idée, Flavie, c'était qu'à un moment, l'un de vous le lise et se rende compte qu'en fait, Henriette, par exemple, s'était pas mariée volontairement avec Matt Moore, mais qu'il s'était servi de ses yeux pour pouvoir l'hypnotiser.
Oui, mais là, tu vois, pareil, il aurait fallu à ce moment-là que quand je prenais le dé de parole, toi, en tant que personnage avec la pingre, tu décrives ça, justement.
Oui, mais en fait, j'avais pas le... Moi, j'étais... mon personnage n'était pas censé être au courant qu'il y avait un journal. C'était Antoine qui l'avait,
okay.
Moi j'ai pas pu.
Ok, mais tu pouvais pas dire juste montre-moi ce journal et
bah, je l'ai jamais vu, mon personnage ne l'a jamais vu. Okay.
C'est pour ça qu'à un moment donné, moi, en tant que meneur de jeu, je t'ai réintroduit en tant que personnage dans la fiction. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand t'es dessinatrice, je vais pas y arriver, il faut vraiment mettre son personnage de côté.
C'est ce
et
que j'ai
autres.
Fait, moi,
voilà.
Du coup.
À chaque fois, pareil.
Personnage...
Mais du coup, ton personnage, ouais, mais toi, Flavie, vu que t'as le canon esthétique en tête, tu avais plein de trucs à apporter. C'est là qu'il aurait peut-être fallu te laisser plus de temps. Moi, pour moi, c'est ça. Le problème, c'est que comme il n'y a pas un système de résolution qui permet de faire durer des actions, voilà, on en est réduit à cabotiner tout le temps, en fait, en un sens. Non, t'es pas d'accord.
Attends, je réfléchis, en fait. Je réfléchis à ce que tu viens de dire. Alors, moi, dans la mesure où j'ai pas énormément joué mon perso... J'ai pas l'impression d'avoir beaucoup cabotiné. Par contre, c'est vrai que j'utilisais mon crayon comme une canne autour de la table et que du coup, j'ai balancé des trucs. Mais moi, cabotiner en personnage, ça a jamais été un problème. Je peux le faire assez facilement. En plus, je connaissais très bien le canon esthétique, donc ça posait pas de problème. Mais, comme j'ai beaucoup cadré aussi des scènes, du coup, mon personnage a moins joué. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais.
J'avais aussi une question. On a noté une quête personnel sur nos petits papiers là.
Ouais.
À quel moment on pouvait le résoudre ou
à la fin de la saison.
À tout moment.
La saison.
À tout moment. Moi j'avais.
Et qu'est-ce que ça donnait ?
Alors moi par exemple ma quête personnelle c'était retrouver le collier d'Henriette Slatcher.
Ouais, donc en fait on a tourné autour de cette quête là.
Est-ce que vous en aviez vous ?
Oui bah moi du coup je devais trouver la cuisine et tout manger.
Ouais, donc tu vois tu l'as très très bien mobilisé au final. Ça a été ton objectif pendant tout le truc et tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. C'est pour se donner un objectif personnel, ouais. En fait.
Ouais.
Pour apporter du jeu et des petites choses en plus à jouer, ouais.
Moi, ma quête, c'était de trouver le générateur de fluide aux pensées. Donc, parce que je pensais que il avait sans doute un générateur, Matt Moore, machin. Et donc, je voulais chercher de l'énergie. Et tu vois, au final, je m'en suis pas du tout servi. Mais je m'en fous, tu vois. C'est pas grave s'il y a des choses qui restent inertes dans la fiction. Et toi, Antoine, c'était quoi ta quête, du coup ?
Retrouver la mémoire volée. Je veux penser un truc genre depuis que je me suis fait hypnotiser, j'ai perdu la mémoire.
Ok, mais du coup, t'as pas du tout joué là-dessus, toi.
Ouais, bah si, ça savait pas
en
lire.
Fait, j'ai pas du tout joué même mon perso trop, parce que, tu vois, il y avait tout un lore sur... En fait,
pourquoi vous avez pas joué?
En fait, la présentation du jeu,
c'est ça que je comprends pas.
C'était trop rapide, Romain. C'était trop rapide.
Ouais.
Même l'intro de ton podcast, c'était trop rapide. Tu nous as même pas présenté. T'as tout de suite... En fait, on a été introduit au jeu, je pense... un peu trop rapidement et on n'a pas construit pierre après pierre l'entrée en la matière.
Ok. Parce que je tiens juste à signaler que voilà, ça c'est les règles. C'est l'intégralité des règles. C'est une page A5.
Oui, tu sais très bien, t'en as lu plein, t'en as fait plein des jeux de rôle. Qu'importe la longueur du texte, quand t'es MJ, c'est toi qui présente le jeu et tu dis pas... je peux pas vous en dire plus parce qu'il y a qu'une page. Non, t'es là, tu prends son élan, tu dis voilà, venez, on va faire
attends,
ça.
Là, je dois m'inscrire en faux. Je vous ai imprimé les pages de règles je vous les ai lues à tous et à toutes.
Alors, moi, j'ai une autre théorie sur pourquoi ça a été dur.
Diago.
Non,
il a vraiment
expliqué.
Ouais.
J'ai tout expliqué, hein. Je te jure, il n'y a pas un truc. Alors, le seul truc, et c'est ce que vous avez découvert, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant que vous le disiez dans les micros, je suis désolé Antoine, je te pressais à venir à la table de mixage, parce que Géraldine et toi, à la fin de la partie, vous avez feuilleté le livre. Je me dis, mais il y a tout ça d'exploration possible, mais il y a ces illustrations-là, tiens, il y a ça et tout, machin. Bah oui, parce qu'en fait, le livre derrière, ce n'est que ça. Mais alors, quand je dis ce n'est que ça, ne le comprenez pas de façon minimaliste.
Non, parce qu'à la fin, il y a vraiment des explications sur chaque personnage aussi.
Alors ça, c'est pour la version évoluée, c'est-à-dire que quand tu veux créer ton personnage et le customiser.
Oui, mais justement, c'est intéressant pour pas faire toujours la même chose.
Voilà.
Donc sur la première partie, ok, mais tu vois, moi, en fait, ça me donnait pas envie de continuer sur une campagne ou sur d'autres scénarios, parce que je me suis dit, oui, ben, je vais toujours jouer la même chose de toute façon, enfin, la même façon de résoudre. Et en fait, après, j'ai découvert qu'à la fin, non. En fait, mon personnage, il avait plein de possibilités de résoudre des actions en fonction de comment je le fais évoluer.
Alors, non, c'est pas ça. C'est que là, j'ai choisi une option où on joue des pré-tirés pour une partie courte d'introduction au jeu.
D'accord.
J'ai fait un choix de faire une initiation au jeu comme elle pourrait l'être dans une convention ou dans un salon. D'accord.
Ce qui permet de découvrir le canon esthétique.
Voilà.
Mais pas forcément le jeu dans toute
ou
son ampleur.
Ou l'intégralité des règles.
D'où le fait que tout à l'heure je disais que le jeu prend des plumes au fur et à mesure de l'avancée. Parce que chaque fois que tu vas explorer donc un canevas, différent, c'est canevas, c'est le nom qu'il emploie, hein, le nom de Fred. Donc, chaque fois que tu explores en fait un canevas différent, tu t'inspires de ce que tu as fait précédemment, et il y a fort à parier que plus tu avances, plus ça prend du temps, justement, parce que tu as la mémoire des parties précédentes. En fait, dans un jeu comme ça où on est lancé immédiat res avec des personnages pré-tirés, on apprend à jouer son personnage au fur et à mesure des parties. Et ça, c'est valable. En fait, quand on a fait beaucoup de bursts pré-tirés, on le sait. C'est-à-dire qu'au début, on tâtonne son personnage. Là, comme c'est des scénars très courts, on n'a pas beaucoup le temps d'apprendre à jouer. Mais plus ça va et plus on aurait pu enchaîner.
Et justement, moi, ma théorie sur le pourquoi, en fait, ça a été un peu... compliqué la prise en main, c'est justement cette immédiat res où moi j'avais l'impression que c'était déjà la fin du scénar.
Mais c'est la fin.
Oui, en fait, mais
moi, je crois que
c'est la fin
flash
d'un
forward.
Autre. C'est en fait,
ouais,
c'est...
Là, on va mettre le flashback. Qu'on allait...
C'est la fin d'un autre scénario.
Oui, mais moi je pensais qu'on allait jouer ça. Et puis ensuite, du coup, il y a une semaine, parce qu'il y a beaucoup de moments dans la BD en fait où ça démarre comme ça, et ensuite, il y a une semaine, en fait, on est parti, on a décidé de venir dans la maison, on l'a déjà un peu exploré, et en fait, on a rencontré Matt Moore.
Alors là, je tiens à te le dire, Flavie, je t'ai demandé, on est où ? Quand t'as cadré la scène, je t'ai demandé, on est où ? Et tu l'as dit, on est au château. Et moi, j'étais vachement surpris. Je pensais que t'allais dire, on est dans ma résidence et je vous explique le truc. En fait, tu t'en es pas rendu compte, mais au moment où tu as pris la narration, tu nous as fait partir. En fait, moi, je décris une scène immédiate en haut d'un château. Pas du tout prévu que c'était la maison hantée qu'on allait explorer. Pour moi, on allait mettre de côté le château et on allait recommencer en fait chez toi tranquillement et t'allais nous expliquer.
Oui, j'ai pas compris ça, moi.
Ouais, voilà. Mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces incompréhensions et ces trucs-là, elles sont liées à la distribution de la narration.
Tu l'as lu en entier, le bouquin, Romain ?
Oui, absolument.
Alors, est-ce qu'il y a un chapitre qui précise s'il y a des hors roleplay ? Hors rôle tout court,
c'est-à-dire.
Bah, moi je pense tout de suite à Fiasco, où on se distribue la narration comme ça à tour de rôle. Enfin, on cadre une scène en fait, il y a un cadreur, un metteur en scène,
oui.
Clairement.
Oui.
Mais il y a du hors-jeu. C'est-à-dire que là, on peut discuter entre nous avant que ça commence et dire « Ah, ça serait cool qu'il y ait ce perso-là. » Et là, on n'a qu'à dire ça. Et là, c'est ce qui a manqué. Parce qu'on était dans un rythme frénétique, même en dehors du cadrage. Comme si, genre, là, dans une heure, je vais prendre mon train pour aller très vite.
Ouais, bah oui, mais ça, c'est le début immédiat res qui nous a lancé le temps. Oui, effectivement, hein, donc, quand la dessinatrice, je vais jamais y arriver, hein, quand la dessinatrice, en fait, tourne, les joueurs et les joueuses doivent donc, effectivement, se mettre d'accord et tout voilà. Ça. Voilà.
Donc, il y a un temps où on peut discuter et dire, ah, ça serait trop bien, bah, là, qu'il y ait ton petit frère qui déboule et tout.
Moi, j'avoue, j'ai pas osé interrompre. En fait, j'ai pas osé interrompre la vie parce que je me suis dit ouais mais en même temps c'est cool tu vois
bien sûr
ça c'était le truc ah j'avais pas prévu tu vois moi quand elle a dit non vas-y on explore le château et tout après tout bah ouais maison hantée en dehors de la ville ça le fait quoi tu
mais
vois
comme alors... Géraldine et moi on n'était pas du tout en posture de MJ de dessinatrice dessinateur et on n'était même pas du tout à se projeter à l'être à un moment donné tu vois moi j'avais décidé en tout cas moi de mon côté de pas le faire
ouais.
Du coup, on n'était pas dans ce rôle aussi, dans cette capacité à mettre pause au jeu, à dire attendez, qu'est-ce qui se passe là ? Mmh. Genre, on s'est pas donné le droit d'interrompre. On aurait dû le faire parce que moi au début j'étais largué. C'est pour ça que je rigolais. C'est ça que je rigolais, Marie, que tu me voyais pouffer de rire là.
Ouais.
Mais c'est qu'en fait je disais mais qu'est-ce qui se passe ? Ça fait 6 minutes 30 et on enchaîne les scènes. C'est what the fuck ? C'était ouais. N'importe quoi.
Moi j'avoue, j'avais
la musique de Benny Hill. Tu vois, c'était vraiment.
Ah ouais. Moi j'adore ce genre de rythme.
Non mais oui.
Jouer un
oui,
rôle là-dedans
parce que je suis largué, quoi.
J'adore ce genre de truc voilà moi je m'éclate là-dedans
ouais mais tu vois si tu fais pause et on dit ouais bah on va faire un truc frénétique tu vois en fait on met des mots juste sur sur mon interrogation et puis voilà ça dure 10 secondes tu vois et
après moi j'ai vite fait laisser le rythme aux autres parce que en vrai à un moment donné donc au début effectivement il y avait ce rythme frénétique mais je suis tombé et là à partir de là vous m'avez plus entendu en fait quasiment. J'ai laissé, en fait, après, je vous ai laissé faire des trucs, aller dans... Moi, je disais plus rien, et c'est même Flavie qui a pris la narration. Donc, pourquoi on est parti dans un rythme si effréné Je crois que c'est l'enthousiasme. Je crois que c'est l'enthousiasme, en fait.
Puis c'est surtout quand il y a une narration partagée comme ça, bah, ouais. Il y a un maelstrom de cadrage aussi, de cadreur. Tu vois, quand on est plusieurs cadreurs, plusieurs metteurs en scène, bah, on s'entraîne dans une certaine mise en scène... Que finalement, peut-être personne n'a vraiment guidé, tu vois. Enfin,
alors, il y a aussi autre
y a
chose.
Il n'y a pas un leader.
C'est que le livre te met beaucoup de conseils sur la gestion du rythme en réalité.
Ok.
Si tu regardes, c'est encadre tomber du rythme, faites une bêtise.
Donc, tu dirais que ça vient de toi. Parce qu'il n'y a que toi qui as lu le livre autour de la table. Bah, si tu dis que c'est dans le livre.
Oui, mais enfin, je l'ai lu aussi, le rôle de dessinatrice
ouais,
de départ.
Ouais, mais je pense que tu as eu plus de temps pour.
Pour t'en imprégner
parce que je t'ai vu pas mal le bouquiner cette semaine et c'est vrai que nous non donc
bah surtout quand tu nous as lu les règles je te jure Romain que tu les as lu en diago oui,
et
nous on
bon,
était
ça,
avec notre perso
ça,
en
c'est
plus
ça c'est bon
et pendant ce temps là on découvrait notre fiche de perso il faut remplir des trucs erreur 404
t'as été rapide
bon,
sur les
désolé,
règles
désolé je m'excuse
non mais c'est pas du tout un fail c'est ouais. Juste on se demande pourquoi il y a ce truc frénétique qui s'est finalement
Non, regarde le jeu parce que c'est vraiment en rouge, tu vois, en cas de retombée de rythme, changer de scène.
Ouais, mais là il y avait pas de retombée de rythme.
Faites une action. attends, voilà, lis le paragraphe.
Mais je te crois
dans le micro. C'est
si tu me dis
tu vois, regarde, t'as un paragraphe, voilà, en cas de retombée de rythme en tant que dessinatrice, changer de scène. Donc voilà, faites une action qui a pour but de cocher une case de progression. Donc c'est exactement ce que je faisais. Présenter un détail étrange ou mystérieux sans présupposer de son sens, il peut s'éclaircir seulement plusieurs scènes plus tard. Flavie
ça,
a beaucoup fait.
Ça, je l'ai pas mal fait. J'ai aussi intercalé un interlude comique en mettant en place la rivière de Jude Burger.
Introduisez un personnage ennemi ou énervant qui va taper sur les nerfs d'un personnage en particulier.
Ça, j'ai pas fait.
La grenouille.
Ah si, la grenouille, ouais.
Donc à un moment donné, je décris une grenouille qui ne cesse d'opportuner. Alors qu'il est en train d'enquêter, c'est ambiance château hanté, tout ça. Il y a une grenouille qu'il a trouvée dans un vase. Voilà, j'ai trouvé ça marrant parce qu'il y a un décalage, tu vois. Et je trouve qu'il y a souvent ça dans les BD. Il y a ça chez Franquin. Dans la BD, il y a régulièrement ce personnage, ce petit perso qui est dans le décor et qui fait rire, mais qui a un peu rien à faire là. Enfin, c'est idée fixe au départ, c'était ça. Hein. Et après, c'est devenu un personnage à part entière.
On n'a pas reproduit l'illustration de la couverture d'un des persos.
Si.
Si.
La mienne.
Ah, vas-y, raconte.
Celui où je tape sur le tapis.
Ah, excellent, trop fort.
J'avais écrit un truc comme ça, super. Genre je marche trop sur un cool. mécanisme secret, tout le monde me regarde énervé en mode oh non, qu'est-ce qu'il a
trop
fait
bien.
Regarde, jouer l'escalade des problèmes. Chaque joueuse explique comment son personnage aggrave la situation en cours. Le dernier à parler la résout en partie ou totalement. Donc je suis désolé hein,
en vrai
copains.
On a suivi parfaitement
a
toutes
suivi
les
parfaitement,
règles.
Ah mais c'est pas, mais pas juste c'est raté ou quoi, je dis juste je ouais. me pose la question.
Ça va vite. Ouais.
Je pense que le fait de séparer c'était un peu trop tôt.
Ça pareil, il le dit dans la base hein, vraiment c'est très bien précisé que il faut séparer justement pour l'idée c'était aussi
ouais,
de
mais là, laisser... on s'est séparé minute 3 quoi. Enfin,
ouais, c'est vrai.
On n'a pas eu de scène ensemble, aucune. On en a eu une en mode allez, on va dans le manoir, voilà.
Ouais, mais justement, c'était pour vous permettre de devenir MJ les uns les autres. C'est pour nous permettre, pardon, de devenir MJ les uns les autres. C'est juste que comme vous n'avez pas pris ouais, la décision non
oui.
plus de. Ouais.
Oui, oui.
Donc c'était. Ouais, ça... Mais très intéressant. Hein. Moi, j'ai. Enfin, voilà, je trouve ça rigolo parce qu'on tombe aussi sur des problèmes récurrents de la narration partagée. Les interprétations, par exemple, du rythme et tout ça. Quand on partage la narration, c'est ce qu'on a très bien dit avec Flavie dans ce podcast, si on n'a pas la même idée de ce que ça doit être, là tu vois, effectivement, t'as raison, à la lecture du livre, moi j'avais la sensation que c'était un jeu d'aventure. Donc faut que ça bouge quoi, faut qu'il y ait des aventures, des rebondissements, il y a un gag à chaque case, enfin pas un gag à chaque case, mais il y a effectivement des trucs en pleine page. Mais j'ai décrit la grande cascade et tout, moi aussi j'ai fait des pleines pages. Mais c'est... Alors pourquoi la cascade t'as pas validé, Flavie? T'as dit... Alors ça, je tiens à dire que dans la narration partagée, ça se fait pas trop. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un introduit un truc, ça te plaît pas, tu prends la parole
alors,
et tu
lis... Alors ça n'a rien à voir, c'est que je
venais... Elle a dit que c'était une illusion.
Ouais, mais c'est
je
ça,
venais
en fait.
D'écrire tout le monde qu'avait... Je venais de décrire tout le monde qui avait une illusion. Parce que dans mon idée, vu qu'il fallait résoudre pour aller vers la façon dont fonctionnaient les yeux de Matt Moore, et donc mon idée, c'était que tout le monde devait avoir une illusion. Et là, je me suis dit, bon, il me faut une illusion pour Donald. Donald, enfin Patrick ou Josiane, je sais plus.
Sophia.
Sophie. Sophie est devant une cascade et il s'avère que on a mangé des burgers aujourd'hui au boulot.
Ah,
et donc j'avais
ça,
besoin d'une illusion.
La rêve commune.
Et donc du coup je me suis dit
bon bah, c'est un jus de burger.
Voilà, parce que je voulais aussi je voulais le coupler au fait de dans les de décriver un truc qui ah comment ça s'appelle je le cherche.
C'était par rapport à ton
décrivez
personnage.
Une embûche qui va mettre en avant les défauts d'un personnage en particulier. Donc je voulais montrer qu'en fait le personnage de Sophie avait envie de se taper tous les burgers, qu'elle allait pouvoir le jouer et qu'en fait au final ce soit une illusion. Donc non, j'ai pas nié, c'est juste que comme j'avais décrit que tout le monde avait des illusions, et bah juste j'ai transformé à ce moment-là ce qu'elle vivait en illusion en fait.
Alors moi je l'ai vécu de façon, enfin ça j'étais hyper vexé parce que du coup moi j'avais décrit, j'étais parti dans l'idée que le château il avait des souterrains, qu'il y avait une cascade, qu'on allait découvrir des secrets sur la construction du château, et d'un coup tu prends la parole et tu dis bon bah tout ça c'est une illusion maintenant. Il y avait un côté, bon moi je connais le canon esthétique, il n'y a pas de cascade sous les châteaux dans Picsou Magazine, et alors j'étais là, bah si quand même, Picsou numéro 13 actuellement.
Bah donc, non. Ça n'avait rien à voir, c'est juste que...
Non, mais ok, très bien. Non, mais très très bien. Mais voilà, donc ça, c'est aussi des problèmes narration partagée. Bon, globalement, moi, ce jeu, il m'a fait penser à autre chose, c'est à l'opposition qui existe dans le monde du jeu de rôle entre, d'un côté, les gens qui pensent que une partie, ce sont des règles qui doivent s'appliquer entre les joueurs, règles qui viennent souvent d'en haut, d'un auteur ou d'une autrice qui les a écrites, d'un maître de jeu qui les transmet par la suite. Et ici, une autre manière de voir le jeu de rôle comme une activité où la partie est une performance artistique, qu'on appelle le jeu en performance.
On a oublié de préciser, dans ce jeu, pour Antoine. Ceux qui n'ont pas compris, qui se posent encore la question, il n'y a pas de dés. On l'a pas dit.
Alors vas-y, ça t'a de tout de suite. Ça t'a,
mais non, je rigolais. Il y a pas de pinard ici.
Ah oui, d'accord.
Il y a pas de dés.
Ouais, ok.
C'est une blague, je m'en fous qu'il y ait pas
okay,
de dés.
Ok, d'accord.
À moi, tu me dis ça.
C'est vrai.
Je m'en fous.
Non mais
en tant que joueur de sens et master de sens, je pense que les deux.
Non, c'est pas ça.
Mais on l'a pas dit dans les micros.
Pardon.
Les gens doivent se dire, mais ils parlent de résolution de trucs, mais oui, il y a pas de dés.
Alors comment on résout les actions? Bah vas-y.
Bah il faut jouer RP.
C'est-à-dire?
Bah, on a des pré-tirés et on a des...
Par exemple, toi, t'avais quoi, Antoine? Raconte.
Moi, je suis un peu tête en l'air, comment on dit? Goofy, quoi.
Ouais.
Mais par contre, j'ai pas peur. J'ai peur de rien.
Ok. Voilà. Et donc, du coup, tu réussissais.
Il y a des conditions, explicites hein, qui disent ouais. Si tu fais ça, alors tu réussis l'action. Sinon, si tu fais pas ça, tu as des complications qui arrivent ou tu échoues.
Donc moi, c'est typiquement déclencher un piège, casser un truc, faire du bruit quand il faut pas.
Voilà.
Un perso qui est à contre-temps, quoi.
Moi, c'est quoi? Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est que sur la feuille de personnage, donc on a des consignes. Donc ne suis jamais une pensée ou une action jusqu'au bout. Imagine les choses les plus folles et concrétise-les. Ne respecte aucune convention sociale, souvent par accident. Essaye d'impressionner les autres, souvent sans succès. Tu es tête en l'air, mais tu as du génie. Bon, ça, par exemple, c'est typiquement le genre de jeu qui est designé pour permettre aux joueurs, à la joueuse, parce que ça, c'est quelque chose... Le jeu de rôle en performance, on le reconnaît aussi parce que donc il a été développé notamment par Roger Nibidet et KF sur le site Je ne suis pas MJ May. Et au départ, beaucoup des personnes qui faisaient des jeux en performance genraient tous leurs jeux au féminin. Donc, c'était souvent les joueuses des joueuses. Et sur le blog de génie, c'est les joueuses. Donc, c'est quelque chose aussi... Là, pareil, comme Martin semble s'inscrire là aussi dans cette idée-là, puisqu'il appelle ses joueurs des joueuses. Et dans le jeu en performance, tout est fait pour que la partie devienne une performance presque théâtrale. C'est-à-dire que la partie dans le jeu en performance est centrale, et chaque joueuse est importante. Souvent, sur le blog de génie, on trouve cette distinction entre, d'un côté, les gens un peu comme moi, en fait, qui prêtent une grande importance aux règles dans la réussite des parties, qui sont donc plutôt des défenseurs de système Does Matter, et les gens du jeu en performance qui se définissent comme joueuses Does Matter. Sous-entendu, ce qui compte surtout pour le succès de la partie, c'est ce que font les joueuses de leur personnage, de leur agentivité, de leur agenda créatif. Et là, on a clairement, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, Flavie, on a un jeu qui est designé.
Oui, clairement.
C'est des livrets de joueuses, en fait.
Ouais, c'est des livrets de joueuses avec et puis qui va s'enrichir au fur et à mesure de différentes capacités. Je pense que c'est quelque chose qui doit au fur et à mesure être personnalisé, au fur et à mesure, quand tu te rends compte de ce que tu joues, de ce que tu amènes, des idées qui peuvent apparaître, tu dois pouvoir enrichir ton livret au fur et à mesure.
Exactement.
Je pense que c'est ce que tu décrivais.
C'est ce que tu décrivais, Géraldine, tout à l'heure, quand tu disais, mais à la fin, dans la base, il y a de quoi complexifier les personnages et tout. Mais bien sûr. Parce que justement, en fait, ton livret de joueur, de joueuse, s'augmente, en fait, s'intensifie au fur et à mesure des parties. Tu acquiers, en fait, des nouveaux skills, des nouveaux trucs. On avait testé Weird avec KF, par exemple, qui est un jeu typiquement qui a été pensé ce qu'ils appellent du jeu en performance. J'invite les auditeurs et auditrices à se référer au podcast sur le sujet et puis aux articles de Génie et de KF qui parlent du jeu en performance. Allez lire ces articles, ils sont très intéressants pour voir leur perspective en fait sur la partie jeu de rôle, complètement différente. C'est vraiment deux choses très différentes. Dans un cas, on design tout le jeu pour les joueuses. D'ailleurs, dans Aventure à plume de Côme Martin, en fait, c'est quasiment pas expliqué pour un MJ. Vous savez, la plupart des jeux de rôle, c'est tu es le MJ, je te transmets les règles et toi tu les transmettras à tes joueurs et tes joueuses. Tu vois, il y a un côté un peu comme ça. Donc moi je suis l'auteur, toi tu es MJ et toi MJ tu transmettras aux joueurs. Le jeu en performance, c'est pas du tout ça. Dans un guide et un manuel de jeu de rôle en performance, en fait, on s'en fout complètement du meneur de jeu. Tout est décrit du point de vue des joueuses en fait. Et ici, par exemple, les règles, elles sont vraiment présentées du point de vue des joueuses. Qu'est-ce que tu dois faire en tant que joueuse dans
comme
ce
un
jeu
livret de règles dans un jeu de société, finalement.
Et comme un livret de règles dans un jeu de société...
Alors, qui peut être lu par tout le monde.
Ouais, mais sauf que là, il y a un truc en plus, c'est que c'est livret de... un livret au sens presque de l'opéra, tu vois. Le livret de comment tu t'appropries ton personnage, plutôt. Et là-dedans, oui, on est clairement. Dans ce truc-là.
Ouais.
Et je pense que quand c'est ta cam, ce jeu-là, il est top.
Voilà.
C'est le canon esthétique, ta cam. En fait.
Le jeu en performance, quand t'es là pour vraiment jouer à fond ton personnage, en impro, etc. Et je pense qu'autour de la table, il faut. il faut vraiment que tout le monde soit au courant du coup du contrat social, c'est-à-dire qu'on va jouer en performance ce soir, donc le but ça va être d'y aller à fond, de, ouais. même de surjouer pourquoi pas son perso pour certains canons esthétiques, et de, on va être ensemble pour pousser la performance jusqu'au bout, d'où voilà. le fait de parler de jeu en performance.
Et tu vois, regarde par exemple, et là pareil, moi j'ai lu ça, je suis au courant de ces théories, je connais en fait ce truc-là, immédiatement j'ai donné une voix rigolote à mon personnage, j'ai joué vraiment comme un comédien de doublage et j'ai vraiment essayé d'être dans la performance, j'ai pas cherché ce soir quand on a joué, je n'ai pas cherché du tout à un seul instant à faire un scénario fouillé machin, j'ai cherché à incarner mon personnage du mieux que je pouvais en respectant le canon esthétique de ce type de dessin animé.
Alors moi je savais pas que ce serait un jeu en performance, c'est juste que moi je joue souvent RP et que du coup quand j'ai joué mon perso, mais je l'ai pas joué énorme, je l'ai pas joué beaucoup ce soir, mais quand j'ai joué mon perso j'ai joué en RP à fond avec mon crayon en guise de canne et tout ça,
ouais. Juste dire que le jeu n'est pas présenté comme un jeu en performance. C'est moi qui, avec la théorie, connaissant la théorie rôliste, va plus loin et pour nos auditeurs, auditrices, essaye de développer un peu cette idée-là. Mais comment dire, le jeu n'est pas présenté, c'est présenté comme un jeu de rôle. Si tu veux.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Mais
on sent.
Un jeu de rôle plus traduit. Oui.
Si tu veux, chaque auteur, autrice de jeu de rôle hérite de sa théorie. En tout cas, la théorie qu'il suit et qui est la sienne. Moi, par exemple, clairement, je suis plutôt du côté forgien, dirait-on. C'est-à-dire que pour moi, les règles sont importantes. Voilà, les règles d'osmateur, ce serait ma caricature. Mais évidemment, pour moi aussi, joueuse d'osmateur, c'est trop simple de me réduire à ça. Mais là, ici, clairement, on sent qu'il est influencé. Et d'ailleurs, on trouve dans les remerciements... Alors, on ne trouve pas Eugénie, bizarrement, mais on trouve KF, qui a fait sans doute partie des playtesteuses. On trouve Vivi Féasson. On trouve Guylaine. Je sais plus, je les ai plus tous. Mais en gros, globalement, beaucoup de personnes qui ont joué un rôle dans le développement de cette théorie de partie comme performance artistique. Donc c'est pas un hasard.
Alors moi globalement, c'est un jeu que je trouve plutôt bien fait. J'ai un petit je pense qu'il faudrait que je rejoue et puis qu'on pose un peu plus et qu'en fait on puisse se donner un peu plus de temps, parce que je pense qu'on a voulu. Puis moi, les parties qui démarrent immédiates, moi, ça me met toujours un peu... Moi, c'est un truc que j'aime pas faire. Voilà. J'aime pas commencer immédiates. J'ai l'impression, on me dit, allez, vas-y, maintenant, joue ton personnage. Attends, tu veux pas qu'on se dise bonjour avant ? Enfin,
Bah, s'il y a une grosse prépa avant, ça peut être sympa.
Ouais, mais là, il y avait... Ouais,
là, c'était un peu...
Mais là, en fait, c'était pas le cas.
Et il faut qu'il y ait une promesse.
Et l'immédiaresse,
pour l'immédiaresse.
L'immédiaresse, je trouve que c'est intéressant quand t'as fait chacun un scénar solo et que du coup, on sait quelles sont exactement les relations qu'on a entre nous. On a déjà plus ou moins un petit peu joué quand même. Mais là, juste, moi, l'immédiaresse, c'est pas un truc qui me parle. Voilà, ça me.
Moi, j'adore.
Ouais, c'est vrai.
J'adore.
Je sais, je t'en avais fait un dans un scénar.
Ah ouais.
Ouais, je t'avais fait de jouer l'immédiaresse. Tu sais, je t'avais entendu déjà dire ça. Je m'étais dit.
Moi, je surkiffe l'immédiaresse. Mais ouais, le jeu, moi j'ai bien aimé, hein, mais trop court.
Trop court, trop rapide.
J'étais très surpris
qu'on prenne plus de temps.
La durée, la courte de la partie.
Moi aussi, j'avoue que quand tu m'as dit on va faire un jeu de rôle, je me suis dit oh là là, je suis crevée, on va finir à quelle heure. Et en fait, non, ouais. C'est...
Un peu soulagé aussi, hein. En mode, ah, on a fini.
Cool. Demain on bosse et on sera pas crevé.
Mais t'as dit, ah, c'est bon, on a tout coché, c'est fini. Et après on continue. Et j'ai dit, ah, mais attends, il y a un épisode 2 là et tout. Il va tourner la page et on va devoir recocher des trucs ou quoi. C'est quoi le délire?
Parce qu'au moment où on finit, il faut faire la dernière scène.
On a joué combien de temps?
J'en sais rien. Une heure.
Je pense que le rythme était vraiment très très soutenu.
Parce que je t'ai dit, j'étais tombé sur l'actual play de 2D6 plus cool. Qui un peu plus de 3 ans sur ce jeu. Je l'ai pas regardé, hein, mais j'ai vu qu'il y en avait eu un avec Comartin. Je sais pas s'il fait le MJ tout le long ou s'il se passe la narration, je sais pas. Et je crois que ça dure la vidéo en tout cas, elle dure 2h30, hein. Un truc comme ça.
Oui, alors une partie longue.
Après, il y a peut-être une heure d'explication.
On a pris une partie moyenne.
Ouais.
Ouais. Voilà, la partie longue elle dure 2h, la partie moyenne elle est censée durer 1h30. Après, je sais pas s'il compte l'explication des règles dedans.
Il y a un peu d'explication, mais pas longtemps.
Ouais. Bah moi, je trouve ça très. Le jeu, je le trouve je trouve, enfin déjà je trouve que c'est un jeu très moderne dans sa structure, faut le dire quand même, c'est-à-dire que c'est pas des heures et des heures de background à n'en plus finir pour
par contre ça c'est bien.
Voilà, tu vois, c'est
pour une intro et en jeu de rôle et des
voilà.
Bah ils surfent sur ça, sur le fait que tout le monde ait le canon esthétique. Enfin a priori, on joue pas à jeu si on connaît pas. En fait, tu peux pas jouer si t'as jamais lu, jamais vu.
Ouais,
quoi
c'est
que
compliqué
ce soit.
Hein. C'est ce serait compliqué, ouais.
Tu peux pas du tout jouer au jeu.
Ah oui, c'est rigolo ça aussi. Je suis en train de parcourir les. Il y a aussi Julien Poire qui fait partie des gens qui ont aidé à produire le jeu et Melville Till Pluven qui sont donc tous deux aussi des gens proches de Génie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin, ce que je voulais ajouter, c'est qu'à la fin, il y a si tu veux, comme il a invité en fait des auteurs autrices donc comme Vivi, comme Melville, comme Julien, comme Clément.
À faire quoi, à faire des canevas,
c'est ça, à créer des canevas ou des personnages.
Alors,
ou des
le jeu, il me semble, hein, je te l'ai dit hors micro au tout début, il me semble qu'il était en financement participatif, c'est ce que j'ai entendu je crois dans l'actual play, parce
d'accord.
que l'actual play c'est avant que le jeu sorte véritablement.
Alors, moi, je l'ai
il y
acheté,
avait
un
kit gratuit sur internet.
Ok.
Alors si ça se trouve, souvent ça se fait ça dans les financements participatifs, c'était fait pour Ten Candles. Bah, il y a des auteurs, voilà, ou des amis auteurs qui viennent et qui
partent. C'est trop rigolo, quoi,
comme,
tu vois.
Et qui aident et qui disent, bah, moi, je vais faire un canevas, voilà. Je fais 5 canevas gratos, truc d'horreur.
Tu vois, par exemple, donc, Julien Poire, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les jeux solo, donc les jeux de rôle où tu joues tout seul, comme le Temple des Vents, par exemple, qui est un de ces jeux qui est ici, là, que j'ai essayé avec Soren. Et donc, bah lui, il a fait une version solo de Aventure à plumes, qui est à la fin du bouquin. Tu vois, où il propose, bah tiens, et si vous imaginiez en fait une BD où votre canard, votre personnage est le héros, tu vois. Alors voilà, pour les. Bon, moi, je suis pas fan du jeu solo, du jeu de rôle solo, pardon.
Parce Attends, que solo, tu veux dire.
Tu joues
seul,
tout seul. Ouais, tout seul, tout seul.
Ah, c'est pas deux, quoi. Enfin, un contre
non,
un.
Non, c'est vraiment.
Un MJ,
oui, oui, c'est pas. C'est tout seul. Tu joues tout seul. C'est-à-dire que tu joues devant ton livre à créer une histoire pour toi. Voilà, c'est.
Dans ta tête. Tu parles. J'arrive pas à m'imaginer.
Bah, t'as,
ce
t'as
que
plein
tu fais.
De méthodes. T'as plein de méthodes différentes. Il y en a où tu dois t'enregistrer et de la diffuser. Il y en a où tu vas écrire un livre et laisser une trace de ce que t'as fait. Il y en a d'autres où tu vas juste regarder des cartes et imaginer ce qui pourrait se passer, etc. C'est vraiment un mode de jeu qui s'est beaucoup développé dans les 5 dernières années. Enfin non, même avant. Hein.
Un
dans
petit
les
peu
10
avant,
dernières
ouais.
années.
Ouais.
Donc, il est très lié à l'écriture.
Ouais,
plutôt.
Donc l'un des premiers jeux qui a été publié de Gaël Sacré, qui s'appelait Happy, qui était un jeu où tu jouais vraiment tout seul à imaginer des scènes douces, amères de vie quotidienne.
Ouais,
ensuite, il a sorti Happy
Together ouais.
Voilà. Donc, pour jouer ensemble à ce jeu solo. Et voilà, et Julien Poire a pris la suite de ces explorations. Et je pense qu'il existait déjà des jeux solo peut-être avant. Je ne sais pas si Gaël Sacré. Moi, en tout cas, c'était la première fois que j'entendais parler de jeux solo. C'était par cet auteur-là. Et en fait, après, bah, donc, Julien Poire a vraiment pris. Et donc, c'est rigolo, je trouve, d'avoir invité Julien Poire pour faire une partie solo. Enfin, tu vois, je trouve l'idée est très bonne. Il y a un côté bande de potes voilà, qui se rassemblent sur un projet et tout ça sans. Leur patte à plein nez quoi. Moi qui les je les connais pas tous personnellement, mais j'en connais quand même certains persos et ça vraiment ça sent le jeu de qui est fait pour défendre leurs idées qui est enfin c'est vraiment
c'est qui est fait aussi pour émuler en fait la façon dont ils aiment jouer.
Dont ils aiment jouer, exactement. Et à préciser aussi que ces gens sont les animateurs, notamment du stand alternatif, qui est donc un stand de jeux de rôle alternatif qui se balade sur les plus grosses conventions de France, en fait. Et donc, les animateurs de ce stand, eh ben, c'est tous ceux que je viens de citer, Melville, Combe, Julien, Génie, Thomas Munier aussi, je crois. Voilà. Donc, et tous ces gens évidemment se retrouvent dans ce côté jeu en performance et tout et théorisent tout ça et c'est aussi des théoriciens du jeu de rôle à leur manière, sauf que c'est des théoriciens qui disent il n'y a pas de théorie tu vois c'est un peu le côté je sais pas comment dire quoi tu sais dans les dans l'art contemporain, t'as toujours ce genre de théorie, tu vois, l'art doit être détruit, enfin tu vois, quelque part, les théories rôlistes doivent être détruites, les joueuses doivent matter, enfin tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas très bien en parler, parce que moi je suis un peu dans le camp d'en face, donc c'est compliqué.
C'est pas forcément c'est pas ma cam. Des trucs auxquels...
Voilà, mais je respecte et je trouve admirable, et effectivement, je vois qu'il y a une structure du livre aussi qui est différente, qui correspond à leur manière de jouer et tout, enfin voilà. Donc voilà, donc Aventure à plumes. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à ajouter, Géraldine? Je te vois fatiguée. Je te sens fatiguée. T'as eu une grosse journée. Faut dire qu'on enregistre ces podcasts le jeudi, plutôt fin de semaine. On est tous bien crevés. Mais est-ce que tu voulais ajouter quelque... Est-ce que tu joueras, je sais pas, avec tes enfants? Est-ce que t'as envie de, je sais pas, j'en sais rien.
Je sais pas. Je suis pas assez.
Jeu de rôle ?
Pour l'instant, en tout cas. Ouais. Ouais. Je pense que j'ai pas assez d'expérience pour l'amener à d'autres personnes ou à des enfants. Après, pourquoi pas ? Dans quelques années, quand j'aurai plus d'expérience, là, je commence mon trip to fly.
Yes.
Donc, ça va me permettre de faire mon expérience et d'avancer un peu là-dedans. Je suis pas fermée, j'ai passé une bonne soirée.
Ça t'a pas fait penser au casse des vieilles canailles?
Mais alors, ouais, vraiment. En fait, quand on a parlé tout à l'heure des prix tirés, des machins et tout, et de cabotiner un peu et tout,
ouais,
j'y ai pensé direct. Je me suis dit, ça me fait vraiment penser au casse des vieilles canailles, oui. Mmh. Mais. Voilà, ouais, vraiment.
Et c'est plus facile de jouer une vieille dame. T'avais plus une vieille dame de droite. T'avais plus le canon esthétique en tête.
C'est ça, en fait, c'est là que...
Oui, puis je sais pas, le casse... En fait, les problèmes étaient amenés différemment et on avait peut-être plus aussi de possibilités de pouvoir les résoudre que là, on était... plus enfermé dans la possibilité, enfin, dans notre résolution, et du coup, bah voilà, ça nous permettait moins de d'explorer comme le casse, ouais. Ouais.
Moi, c'est ça. Alors, si j'avais un défaut à dire à ce jeu, c'est ça. C'est pour moi le système de résolution n'est pas assez clair. Il faut dire, ok, là il y a un problème et là machin, mais là ils vont me dire, je sais, ils vont me tomber dessus. Les gens, les joueurs en performance vont me tomber dessus. Ils vont dire, mais ça c'est normal, c'est parce que toi t'es forgé. Mais tu vois, moi il y a un côté, ça manque de règles. C'est-à-dire que. Pardon.
Ah oui, sur un jeu en performance romanique.
Mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, il y a un moment où pour un joueur, je suis désolé, mais pour une joueuse débutante, en fait, les règles, il y a quelque chose de rassurant. On sait ce qu'on fait, ça cadre, ça suit, tu vois.
J'étais un peu perdue. Moi, j'avoue que je savais pas quoi faire. Et si on échouait comment? Qu'est-ce que ça donnait? On savait pas non plus.
Si t'as envie d'échouer, tu fais exprès de pas jouer.
Oui, alors ça, d'accord, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, ça donnait quoi par rapport au scénario, tu vois?
Le droit de réussir après.
Le droit de réussir.
Ouais, ouais. C'est ça. Et ça, c'est un vieux truc. Ça, c'était. Je me souviens que c'était Melville qui avait eu cette idée-là d'un jeu dans lequel, en gros, tu accumulais des dés d'échecs et de réussite. Je sais plus comment ça s'appelait, ce jeu. Mais c'était un jeu dans lequel, en gros.
Pas celui où tu étais en vacances.
Ah non, ça, c'est Summer Camp, c'est Troubling for One. C'est encore autre chose. C'est encore une autre mécanique. Mais non, c'était un jeu. C'était un de ses tout premiers jeux. C'était un de ses tout premiers jeux dans lequel tu devais échouer pour réussir par la suite. Donc, tu ne pouvais pas, en fait, lancer des dés de succès si tu n'avais pas pris des dés d'échec. Et pour prendre des dés d'échec, tu devais échouer, en fait. Il y avait un truc comme ça dans son jeu. Et donc, c'était déjà une de ses marottes, cette chère Melville. Et là, on retrouve un petit peu cette idée-là aussi. Mais c'est vrai que... Oui, mais quand est-ce qu'on... En fait, tu vois, là, on revient sur ma question un peu... Bon, je suis désolé, je suis un peu rigide, hein. Voilà, je vais encore me faire défoncer. Mais tu vois, c'est quand est-ce qu'on échoue et quand est-ce qu'on réussit, tu vois, il y a un côté...
Et c'est toi qui dis.
Quand t'as envie.
Oui, mais non, mais d'accord. Ok, bon, d'accord. Ok, donc on s'auto-valide.
Oui.
Bah oui, voilà. Ce qui compte, c'est l'histoire, les persos, nos persos.
Ok, soit. Mais ça, ce sont... Soit, très bien. Mais ça, en fait, c'est adapté à certains types de joueuses.
Et bah oui.
toutes les joueuses ne sont pas à l'aise avec l'idée de s'auto-évaluer. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels l'évaluation vient de l'extérieur. On te dit t'as raté, t'as échoué. Le jeu lui-même te dit t'as raté, t'as échoué. Il y a une, tu tires une carte, elle est rouge ou elle est bleue. C'est une loi fasciste ou c'est une loi libérale. Tu sais, en fait, il y a un côté là, le fait de d'assurer l'auto-évaluation, c'est pas quelque chose d'inné et de forcément facile pour toutes les joueuses. Certaines joueuses sont très à l'aise avec ça dès le départ, et donc ce sera très bien pour elles et eux, mais c'est pas pour tout le monde.
En même temps, je pense que il y a beaucoup de façons de jouer aux jeux de rôle très différentes. Tout comme moi, par exemple, je fais pas partie des gens qui peuvent rester autour de la table à juste écouter et attendre que le MJ me dise lance le dé et me dise ce qui se passe quand le dé est lancé. Je fais pas partie des joueuses qui peuvent jouer comme ça. Ce type de jeu, il sera pas pour moi, tu vois. Et donc, je pense que c'est bien qu'on ait assez avancé dans l'histoire, en fait, et dans la théorie du jeu de rôle, pour, en fait, se dire qu'il y a certains types de jeux et qu'en fait, on n'est pas fait pour jouer à tout. C'est comme, moi, je fais pas... Moi, tu m'emmèneras pas sur un jeu de société de 6 heures appelé... Dune où tu dois jouer les fucking sorcières et où t'es sûr de perdre parce que t'as pas les bons pouvoirs. Bref, moi c'est pas mon type de jeu. On a tous des types de jeux et je pense que ce jeu là il est voilà, c'est un type de jeu, voilà. Et donc il y a toi, c'est pas toi, t'es fait pour avoir plus de cadre. Voilà. Toi, tu es toi, t'as besoin d'être rassuré, mon minou.
Il y a des joueurs débutants qui pourraient très bien commencer par ça. C'est juste que toi, t'es perclus de quelque chose.
Après, là, c'est du théâtre d'impro. Il faut quand même être vachement à l'aise.
Et moi, je sais que j'ai fait du théâtre d'impro.
C'est du théâtre d'impro, Donald. Hein, oui, ça va, le canon esthétique.
Et moi, je pense que j'aurais pu commencer par ça.
Une fois que t'as la ref.
Ça m'aurait pas dérangé plus jeune.
À l'aise avec le fait de créer des choses.
Mais tu vois, souvent on se pose la question, c'est quoi le meilleur jeu pour débuter ? Cette question, elle arrive très souvent parce que les gens.
Ça dépend quel type de personne t'es, en fait.
Et voilà, évidemment.
Et quel type de jeu tu aimes ?
La réponse est proposer un jeu adapté. C'est-à-dire adapté à vos joueurs et joueuses. Vous savez, en fait, vous savez.
C'est vos amis, vous savez.
Vous savez, théoriquement, vous savez quel genre de jeu.
Sinon, vous pouvez leur en parler.
Voilà.
Oui.
Sinon, vous pouvez vous leur
en parler. Est-ce qu'ils vous font confiance pour vous suivre dans vos délires.
Dans vos délires. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu moins vite ? Bon, c'est une question dont on a la réponse maintenant. Maintenant, avec Antoine et Géraldine, je prendrai soin d'aller plus lentement. Maintenant. On va
de toute façon, en ce moment, ce n'est pas toi qui masterise, c'est moi.
Oui, c'est vrai, mais ça veut dire quoi, ça ?
Bah parce que tu vas pouvoir prendre ton temps.
Ouais, c'est ça. Et là, tu vois, le jeu de rôle, par exemple, traditionnel, classique, où il y a un meneur de jeu qui dirige un petit peu et qui cadre la partie, ça peut être rassurant pour les gens un petit peu inquiets comme moi, ou vraisemblablement comme toi aussi, Géraldine, t'as l'air de dire. Alors que le jeu de rôle, comme ça, à narration partagée, ça peut tout de suite paraître très vertigineux pour des gens. J'imagine, tu vois, là, le problème de Julia, dont on a parlé énormément autour de Trip to Sky, le fait de se retrouver d'un seul coup avec des gens qui te regardent et qui disent vas-y raconte un truc et là de se sentir un peu là j'aime me dire que sur des jeux comme ça tu peux l'avoir quoi parce que là ça va on a dit que la narration l'était c'est-à-dire que j'ai fait une règle qui est si vous ne la voulez pas vous pouvez la passer à quelqu'un d'autre mais on peut envisager d'autres mécaniques où c'est chacun son tour et là si t'es en face de toi et tu dois raconter quelque chose on peut se retrouver
on n'aurait pas eu de fontaine de burger.
Non.
Non.
Bah là, il n'y a pas trop de difficultés, je pense, à prendre le lead pour la narration, compte tenu du canon esthétique. Si on a la ref, voilà, on sait où on va, on fait un truc goofy, rigolo, tu mets la musique et puis ça passe. Tout passe, hein, à peu près, du moment que c'est drôle, quoi, en fait, et qu'il y a du contraste. Par contre, si tu fais le même jeu en dehors de ce canon-là, un jeu contemporain avec un sujet sérieux, là, c'est autre chose. En fait, le canon esthétique est très rassurant. Je pense pour ce type de gameplay,
système. Ouais, moi j'ai déjà fait ce type de jeu en fait dans un univers très très contemporain et un peu déprimant même. Mm-hmm. Et en fait, moi j'avais trouvé que ça passait très très bien, mais encore une fois, ça dépend quel type de joueur on est. Enfin,
tu pensais non, mais je parle quoi, le fait de prendre le lead, prendre la narration.
Le jeu qu'on avait fait avec KF.
Weird du coup.
Ouais.
Ouais. Ok.
Moi, ce jeu, il me fait beaucoup penser à Fiasco. J'y pense depuis qu'on a commencé.
Ouais, ouais, bien sûr.
J'arrête pas, j'arrête
il va
pas.
Falloir qu'on y joue.
Qui est un jeu forgien, écrit par quelqu'un, Morningstar, non
ouais, il a été playtesté déjà à la télé.
Bah, j'étais dans le, ouais, dans le podcast. Ouais. Et c'était il y a longtemps.
La partie était prototypique, je m'en souviens.
Mais c'est un jeu génial. Moi, c'est un des jeux préférés.
Ah,
on
n'est
pas obligé d'enregistrer des podcasts. Ça... On pourrait rejouer.
Antoine,
on m'a censuré.
Antoine disait que c'était un de ses jeux préférés. Ouais, on t'a pas entendu, mais c'est à cause du cas. Le câble est un peu bancal. Il commence à être un peu.
Ouais, jeu. Bien sûr.
Ouais. Oui, on peut refaire. Et d'ailleurs, je compte refaire très bientôt un podcast sur zombie cinéma.
Oh, je veux participer. Je veux participer.
Oui.
Parce que en fait, obligé. Parce qu'en fait, vous voyez par exemple le terme de cadrer une scène qu'utilise Côme Martin. En réalité, c'est une ça vient d'une traduction française de Christophe Guillaume Buckley de zombie cinéma. C'est un mot, par exemple, genre je sais pas, Jérôme Larrey me corrigera, mais je crois qu'on ne le retrouve pas en francophonie avant zombie cinéma.
Un petit zombie cinéma, il a créé plein de choses en fait.
Voilà, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est un jeu.
Tu sais très bien que j'aime d'amour ce jeu.
Ouais. Mais en fait, c'est en relisant zombie cinéma avec Flavie pour un autre projet que on s'est rendu compte que zombie cinéma avait complètement gangréné nos cerveaux. Mmh. C'est-à-dire qu'en termes à la cellule, on employait régulièrement par exemple le terme de plaider pour son personnage. Ça vient de zombie cinéma, plein de choses. Et donc on s'était dit qu'on referait un podcast pour voir tout l'héritage de zombie cinéma dans les micros de la cellule et à travers la cellule.
Je me remette
dans les,
sur
dans
ce
les
projet
jeux
d'ailleurs, c'était très rigolo.
Ouais. Donc c'est, en tout cas, c'est voilà, enfin c'est à refaire. Donc on pourrait refaire un Fiasco si tu penses qu'il y a encore des choses à dire. Tu réécoutes le podcast. Et... Alors tu
le canon esthétique de Fiasco, c'est juste qu'on joue des persos qui vivent un fiasco. Donc t'imagines, c'est large.
Non mais
Fiasco.
Non mais il faudra réécouter le podcast et savoir s'il y a quelque chose d'intéressant
à dire. Le podcast
à
l'époque, je me souviens que c'est surtout un rapport de partie. Hein. On raconte, on est tellement passionné, on vient de sortir d'un parti, on dit ah bah moi j'ai fait ça et lui c'était ma sœur et on s'est embrassé alors qu'on n'avait pas le droit.
D'accord, ok. Voilà. Ouais, ouais.
Et on parlait pas en profondeur vraiment.
Des mécaniques,
surtout qu'à l'époque c'était toi qui nous interviewais, t'étais un peu le, tu sais, c'était les étés à la barre.
Ouais, 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 ouais.
Du coup, t'avais pas vécu le truc.
D'accord, ok.
Tu posais des questions en béotien et t'étais là, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous, on était juste passionnés par ce qu'on venait de vivre. Mais on était incapables d'avoir du recul vraiment sur.
D'accord.
Et sinon, vous avez joué ça comment? Bah, tu vois, je l'ai regardé et puis je lui ai dit, non, mais quel.
Et à la fin, je lui pèse son froc. Et...
bon,
Je dérape.
Voilà. Et après, on se demande pourquoi ça va vite, le rythme. la
bref, en tout cas, si vous êtes des personnes qui aimaient jouer...
Et recadre le podcast.
J'essaye de recadrer. Non, mais moi, je vais finir par... Je prends
une bonne cadreuse.
Je prends le lead.
Voilà, je vous conseille... Si vous aimez jouer en...
Il y a plein de cul dans la...
Si vous aimez jouer en performance, je ne saurais que trop vous conseiller Aventure à plumes.
Regarde cette image, il y a plein de fesses partout. J'avais déjà remarqué qu'il y avait des fesses dans le livre de Côme Martin. Bon, en fait, c'est un
le livre est très beau.
Ouais, la maquette est superbe. Hein.
Magnifique.
Ouais.
Je ne sais plus quoi dire, Romaric.
One-shot ou campagne.
Mais non, c'est
Aventure
des beaux.
Aventure à plumes.
Ah
c'est
ouais,
trop
si,
bien.
Y a des culs.
Ah si, il y a des culs à fond.
La salle de bain.
Tu parles.
Page 47. Ah,
c'est tout. C'est tout.
Achetez-le, cours l'acheter.
Cours l'acheter.
Page 47.
Mais où est-ce que vous voyez?
Oh non, bah, mais t'inquiète.
Du cul.
Mais c'est bien, ça va faire vendre comme Martin là.
Ah, dans
mais
les lettres.
Bah oui, dans les lettres.
Chut.
Pas dévoiler tous les secrets de Côme. Mais et voilà, c'est bien ça.
La
faire
page
vendre,
47,
ça va faire
vous verrez.
Une fois de plus, à cause de la cellule, vous allez acheter plein de jeux. Je sais que vous êtes nombreuses à acheter des jeux qu'on traite. Mais voilà, donc.
Oui, il y a un magnifique derrière voilà. Hein, dans le i. Oui.
En tout cas,
tiens, je ne vois
quoi.
Pas être la seule
j'ai
à profiter.
Voilà.
J'ai pas vu les culs. Ah, comme quoi. Ça, c'est pareil, c'est un truc de fou. Dans Disney, il y a toujours eu des rumeurs comme ça qu'il y avait des scènes de cul cachées dans des Walt Disney et tout ça. Souvenez-vous de Bernard et Bianca. Est-ce vrai, est-ce faux qu'il y avait un... Alors, c'était vrai ou c'était faux? Savez-vous,
c'était vrai,
mais ça a été coupé. C'était une version, une VHS, un monteur qui s'était amusé.
Ouais.
Ça avait fait une panique morale.
Ouais, panique morale, alors l'enfant qui regardait ça, alors que c'était dans une des fenêtres au bout.
Il y a un cul dans le. On pourra dire qu'il y a un cul caché dans le.
Il y en a plusieurs
dans le livre. Voilà.
Pas hyper caché quand même. Hein.
Mais c'est pas très très sulfureux.
Hein. Non, c'est pas très sulfureux. Même si, bon. Bref, alors donc. Côme Martin, merci beaucoup pour donc ce jeu. Donc ça s'appelle Aventure à plumes, c'est de Côme Martin, en vente partout. Moi, je crois que je l'ai acheté sur Philibert. Donc voilà, excellent.
Combien ça coûte?
Je sais plus ça. Regarde derrière. C'est pas grand cher.
Non, pas marqué.
Si,
si y a une 20, ISBN, 25
euros
part,
à tout péter.
Mais non. Ah, si,
devant.
Oui, mais il n'y a pas le prix.
Ah, t'as vu, ils ont mis le code barre devant, comme sur les magazines.
Ah,
comme Pulp.
Petite trèche, ouais,
mais il n'y a pas de prix, non.
Il n'y a pas de prix, non.
C'était une, peut-être entre 20 et 30 euros dans mon souvenir, mais peut-être 29, je sais plus.
Une très belle maquette.
Ouais. Ouais, c'est une très belle maquette et surtout ce que je trouve génial, c'est tous les schémas en fait explicatifs d'aide, que ce soit aux joueuses ou aux meneurs, pour enfin ou à la dessinatrice pardon, pour prendre en main le jeu,
c'est
s'assurer
cool d'en avoir
du rythme
autant.
Et tout.
Bah, après, on pourrait dire bon bah j'en mets 10, puis après tu fais un chapitre de 10 pages qui explique comment créer ses propres canevas. Souvent c'est ce qui se fait d'ailleurs.
Bah c'est ça, c'est ce qui s'est.
Non mais là il y en a énormément.
De canevas tu veux dire?
Ouais, là il y en a 40, enfin ouais. 30.
Parce qu'il veut rendre hommage à tous les types de canons esthétiques qui sont servis dans Picsou Magazine.
Ah bon, la Picsou.
Mais pas mal hein. Pas mal, pas mal. Bon, bah merci beaucoup. Allez,
merci.
On va vous
merci.
Laisser.
Merci.
Passez
encore une
un
bonne
bon
année.
Début d'année.
Ouais, passez
ouais,
un bon début d'année.
2026.
Hein.
J'ai cherché une vraie bonne rime à 2026. La seule qui me revient à chaque
2026,
fois, c'est...
2026,
tit. Saucisse. Voilà. Si vous trouvez des meilleures rimes, n'hésitez pas à nous les
qu'on
partager.
Qu'on l'achète, qu'on l'achète.
Voilà. J'en cherche une parce que j'ai fait un...
Alors, tu cherches quoi, une saucisse ou...
Non, je cherche une vraie rime pour 2026.
Ah,
j'ai un... Je fais un...
2026, l'année de la saucisse, j'en cherche une, excuse-moi.
Mais... Non, mais une rime qui aurait plus de sens que l'année de la saucisse. Donc, si vous en avez une, parce que je fais un petit...
oui.
Un petit
tous les ans.
Duel
l'année
avec
dernière,
des copines.
C'était très compliqué.
C'était
même,
Guillaume Vendée qui avait gagné.
Ah.
2025, l'année qui requinque.
Ouais.
C'était Guillaume Vendée qui l'avait trouvé.
En fait, c'est avec des copines ou du coup... on s'est dit la première qui a une vraie rime on se partage et on s'était dit que tout ce qui avait rapport avec saucisse et oïs c'était pas bon.
Ouais, voilà. Saucisse ça marche pas hein. C'est année de la saucisse, c'est pas terrible. Bon allez, merci beaucoup, à très bientôt tout le monde, portez-vous.
Salut
bien et surtout
salut,
jouez bien. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.